Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 28 février 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici votre documentaire sociologique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Bah tu t'es planté de jingle, on parle d'un film avant l'autre film asiatique.
Ouais ouais, c'est bien ce qu'il me semblait.
Bon pardon, d'accord, désolé.
Non mais c'est bien, c'est
chercher le fond.
C'est pas comme si c'est toi qui faisais le conducteur, mais bon c'est pas grave.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Eh ben bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous pour... désolé d'avoir été absent d'ailleurs la semaine dernière, moi j'étais complètement claqué, voilà, oui je me suis investi dans le sujet d'aujourd'hui. Thomas, toi...
J'avais la grippe.
D'accord, excusez, certificat médical, bon ça change. Bonjour et bienvenue en tout cas, nous avons le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir deux scénaristes qui sont de la région et qui cartonnent beaucoup. Ils s'appellent Becca et quand je dis cartonnent, c'est qu'ils font dans l'album cartonné et ça marche même très très bien pour eux. Bonjour à vous deux. Alors c'est Bernard et Caroline si je me trompe.
Non, loupé. Bertrand.
C'est Bertrand, d'accord, voilà. Et en plus, ils ont un très très bel accent. Caroline, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Thomas va vous mettre les casques, parce que c'est vrai qu'on là, on a fait des déplacements un petit peu en cata pendant ce temps-là que moi, je vais vous dire un petit peu ce qui vous attend pour cette émission. Bien évidemment, on va parler de rugby, on va parler de bande dessinée, on va aussi parler de la mort de Philippe Joseph Farmer, qui a eu lieu, bon, il avait 90 ans quand même, hein, mais qui est l'un des très 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 grands du roman de fantasy et de science-fiction. Il y a eu bien évidemment les Césars et les Oscars, il y a du chamboulement dans les soirées, dans les nuits américaines, et cela va impacter la télé française puisque ben, c'est les séries aussi qui vont en pâtir. Il sera question de geek très rapidement, de campagne anglaise avec le bouquin de Pussy Simmons, Tamara Drew, et point de vue cinéma. C'est le dernier, c'est le baroud d'honneur, je vais dire, d'un très très grand flingueur et qui là va dire finalement la castagne ça résout pas tout. Et après, la télé et tout le reste, mais ça, on verra. En attendant, tout à l'heure, si vous écoutez en direct, tout à l'heure, vous aurez peut-être l'occasion d'aller à la librairie Album pour rencontrer Becca, qui est donc l'invité de ce supplément week-end et qui donc va se soumettre au jeu absolument violent et catastrophique de nos questions à l'emporte-pièce. Mais en attendant, veuillez accueillir... le Cador, le Challenger du sport. Oui, c'est son pseudo qui a plusieurs fois d'ailleurs parlé des BD, des rugbymen. Et puis, donc, voilà, en attendant, Thomas, oui. Tu vais dire, toi, tu t'es trompé de chaîne, tu as regardé l'autre match, celui où Lille est reparti bredouille avec même pas un essai et même pas transformé.
Non, moi j'étais sur le grand écran, moi. Parce que j'ai vu le film dont je vais parler aujourd'hui.
D'accord, ok. Alors quand tu me parlais des Césars, en fait, t'as fait comment? T'as regardé le résumé?
Non, je t'ai dit, ah, il y avait les Césars hier, c'est tout. Toi, t'as cru bon de l'ajouter au programme, mais en fait, non. Hein.
Ok, est-ce qu'au moins tu as regardé les Oscars?
Les Oscars, il faut veiller à 2h du matin. T'es fou?
Mais grand Dieu, mais attends, mais... Mais tu es censé être chroniqueur cinéma dans cette émission.
Oui, bon, c'est pas la première fois qu'on passe sous silence une grosse actualité, quelle que soit la catégorie de la rubrique.
Ah bon, d'accord, ok. Donc j'aurais cru que, mais quand même. Donc, mais de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
On verra.
Ok. En attendant, on va directement entamer avec ces pauvres invités qui se disent, mais dans quoi ils sont tombés? Je vais quand même d'abord... Avant de les présenter eux-mêmes, présenter leurs bouquins. Alors, il y a certains livres, on se dit qu'ils ne sont que des publications opportunistes, destinées à être écoulées en supermarché, vite faire de l'argent. Enfin bon, J'ai le tort de le croire la première fois que je suis tombé sur cette série-là. Il faut dire que le format 48 pages cartonné couleur, un gag par planche, forcément c'est un formatage et c'est un petit peu cliché. En fait, ce livre n'est là que pour vous faire poêler. La même ambition qui fait que tous les week-ends, les joueurs du Payard Athletic Club s'en mettent sévère sur la patate, et dans la pensée aussi, à grands coups de gestes virils, d'une sportivité éprouvée, de bleus, de boss et d'essais transformés. Des gags qui montent toute la convivialité du rugby du Sud-Ouest. Oui, non, le rugby de Paris, c'est une variation qu'on ne connaît que très mal. On se marre, mais on se prend pas au sérieux. En fait, on se retrouve vraiment l'ambiance d'un match de rugby, jusque dans les phases de jeu, sur le terrain, mais là où le foot est devenu sérieux à en mourir, je veux dire. Non, je faisais pas un jeu de mots débile sur le stade du Ezel, je vous rassure. Les troisièmes mi-temps de rugby sont un exemple de savoir-vivre. Pardon, sans mettre ras la panse quand même, on est là quand même pour caler ce que l'on a dépensé comme calories, quoi. Et c'est une série populaire, les rugbymen, au sens noble du terme, qui rassemble sur les valeurs communes. Quand le public du ballon ovale participe au match, c'est plus de bon cœur et avec humour qu'ils se foutent dessus avec de grosses mandales. Alors, les rugbymen, c'est les péripéties d'un club de rugby à 15 de la ville fictive de Payard, située dans le sud-ouest de la France, avec une forte tradition du jeu, puisque même les ronds-points seraient ovales, à ce qui paraît. Alors, on a toute une équipe. Il y a le coach, il y a les premières lignes, le talonneur, deuxième ligne, l'arrière, un troisième ligne qui a été embauché dans l'album qui est sorti aujourd'hui. Mais c'est surtout derrière une équipe de choc, à savoir Becca. Becca, c'est Bertrand Esquèche et Caroline Rock. C'est marrant, d'ailleurs, ça me fait penser à un autre couple de scénaristes, Ange, Anne et Gérard Guéraud. Est-ce un hasard, finalement?
Qu'on te fasse penser à Ange.
Non, comme ça, le mot valise. Comment vous êtes rencontrés en soi?
Eh bien, on s'est rencontrés à Toulouse où nous faisons nos études et en fait, on s'est rencontrés dans un cours de danse africaine.
D'accord.
Qui avait lieu à la fac. La fac Paul Sabatier.
Ah ok, non, j'ai cru que c'était le Mirail. Donc ok, donc là comme c'est à côté des Staps, je comprends tout à fait que vous êtes entraîné aussi pour le rugby. C'est sur les greens à l'entrée, donc ça tombe très très bien. Accessoirement, ça fait combien de temps que vous officiez en tant que scénariste? Ça fait 5 ans, 6 ans ou plus? Pour les séries actuelles, je crois que ça fait 6 ans.
C'est possible, ouais. Franchement je sais pas, on voit pas trop le temps passer, on a du boulot. Donc je sais pas trop, ouais, ça doit faire dans ces eaux-là à peu près.
Mmh. Et sur, alors là je patauge, je vais dire parce que j'ai pas relu mon conducteur juste avant. Qui a eu l'idée en fait, puisque en fait vous êtes deux, mais qui c'est qui a commencé à écrire des scénarios et qui a passé le virus à l'autre?
Ça c'est moi je crois. Donc Caroline?
Oui, parce que moi au départ j'étais peu lectrice de BD et je me destinais plutôt à l'écriture de romans. Et c'est en rencontrant Bertrand que je me suis mise à la BD en fait.
Et point de vue bande dessinée justement, qu'est-ce que vous lisiez comme bande dessinée avant de vous y mettre de votre côté? Est-ce qu'il y avait des livres que vous favorisiez, des choses qui vous plaisaient?
Ouais, un petit peu de tout, hein. C'est-à-dire bon, la BD comme tout le monde, on commence à lire gamin je pense, donc gamin on lit ce qu'on aime quand on est gamin, puis en grandissant les goûts changent, on évolue, mais moi j'ai pas renié ce que je lisais toujours gamin, donc ouais, je sais pas trop quoi te répondre, un peu de tout. Moi je trouve que plus la BD est diversifiée, mieux c'est finalement, il y a des trucs super dans toutes les branches, toutes les directions.
Quand on préparait l'interview justement tout à l'heure, tu disais moi je me cantonne pas à certains trucs, à du Spirou etc, je lis du manga, je lis... Quelles sont actuellement les dernières BD que vous avez lues par exemple, si c'est pas indiscret, qui vous ont plu?
Ah, la dernière BD, alors c'est un cadeau de Jean-Yves Ferry d'ailleurs, le scénariste de Retour à la Terre. Il nous a offert BC, l'intégrale livre d'or de... Alors comment il s'appelle l'auteur américain qui faisait Wizard en même temps? Claude.
On a un libraire, c'est pas réel.
Tu sais, cet auteur de strip américain, je crois que c'est Art.
Ah, mais c'est BC, c'est extrêmement vieux, c'est années 50-60.
Ouais, ouais, ça commence dans les années 50, et il a fini dans les années 90, en fait, oui, toujours sous des hommes préhistoriques, en fait.
Oui, c'est un truc qui d'ailleurs est assez... enfin, c'est assez nonsense comme humour.
Complètement,
tout à fait.
Ça correspond bien à Ferry, finalement.
Exactement, ouais. Exactement. C'est tout à fait ça. Et alors, on s'est régalé, il nous a offert ça, c'est un vrai plaisir. Sinon, juste avant, on avait lu Kiki de Montparnasse, pardon. qui est une super BD d'ailleurs. Mm-hmm.
Qui avait été primée en son temps, puisqu'on parlait tout à l'heure des prix qu'on n'a pas vus. Donc voilà, ça tombe très bien. C'est des bandes dessinées finalement. Vous en êtes consommateur régulier ou parce que Caroline, toi, tu m'avais dit que tu étais plutôt roman en fait.
Oui, plutôt roman. C'est l'occasion là. Bon, Jaï vous avait offert cette BD. Sinon, moi, je m'occupe aussi en tant que bénévole d'une bibliothèque, dont j'en lis à la bibliothèque. Mais après, j'en achète pas forcément quoi.
D'accord. Ah oui, quand même. Donc il n'y a pas que des scénaristes derrière, donc à côté, oui, bibliothèque, c'est-à-dire tu t'occupes bénévolement, c'est-à-dire tu tiens les fiches et tout ça, ou tu conseilles en général sur les
On habite dans un petit village de 300 habitants, donc on fait un peu de tout.
Qui s'appelle Payard ?
Non.
C'était facile. D'accord, ok. Donc,
mais c'est pas loin quand même.
C'est pas loin. Oh, oula, oula, attention, là, ils commencent à entamer les rapprochements, on va dire, sur d'autres choses. Vous avez trois séries principales à votre actif. Vous avez aussi Nancy Chin l'année dernière, donc sur la Chine médiévale. Il y a Studio Dance qui est donc une nouvelle série, je vais dire, sportive, entre guillemets, hein, là aussi chez Bambou. Quand vous avez l'idée d'une nouvelle série, est-ce que vous avez déjà l'idée du dessinateur que vous prendriez ou vous laissez le soin à votre éditeur de trouver le genou sur lequel vous allez vous faire vos dents?
Non, pour Studio Dance, on avait déjà l'idée d'un dessinateur avec qui on avait travaillé et avec lequel on avait envie de continuer à travailler en fait. Donc ça s'est fait sur la continuité.
Et ça se passe comment? Vous filez un script complet, un gaufrier complet, vous laissez... comment vous travaillez en fait justement avec vos scénaristes?
Ouais, comme avec ça.
En tant que des scénaristes, pardon.
Comme ça en fait, on envoie un découpage complet case par case, donc bande par bande dans le cas du gag, parce que le gag finalement c'est la structure est clairement définie. Voilà, après on laisse quand même une liberté de cadrage au dessinateur, on va jamais imposer un gros plan ou une contre-plongée ou un truc comme ça. On lui décrit juste le dessin avec le minimum de mots possible pour qu'il puisse lui s'éclater, se l'approprier et apporter
ce qu'il veut. Des fois il y a des gars qui reviennent derrière, quand on voit un demi de mêlée qui se retrouve dans le public, dans les poumons d'une femme...
Ça, c'est un petit ajout du dessinateur.
Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais. Donc, vraiment, de ce côté-là, il y a un plaisir. C'est pas. Il y en a qui disaient qu'ils étaient les employés d'autres scénaristes. Là, vous leur laissez justement une patte créative.
Ouais, ça, on tient vraiment à l'éviter. Et les dessinateurs le demandent aussi. Parce que plus ils vont s'éclater, plus ils vont apporter de choses, plus le résultat a des chances d'être à la hauteur.
D'accord.
Et est-ce que vous écrivez tout à quatre mains ou est-ce que vous répartissez les tâches?
Non, on écrit tout à quatre mains.
D'accord.
À part Shin qui l'a écrit tout seul. Mais...
D'accord.
Ok. J'ai cru comprendre que justement votre éditeur, Olivier Sulpice, va ouvrir une école de bande dessinée à Montreuil. Ça, je l'ai lu dans la tribune, il me semble. En septembre, est-ce que vous ferez partie du jury?
Cette école ne s'ouvrira pas en fait.
La crise est passée par là?
Non, c'est pas ça.
Non, c'est des petits problèmes internes. Il a pris du retard avec la réfection des locaux qu'il a acheté donc pour s'installer à Paris.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. Donc, je crois qu'il y a eu un petit différent aussi avec la personne qui devait s'occuper diriger de l'école, diriger l'école. Donc pour le moment, c'est mis en suspens et voilà, on n'en sait pas plus.
D'accord.
Sinon, on n'aurait pas fait partie du jury, non, je crois pas. Peut-être intervenant ponctuel.
Puisqu'on parlait de dessinateur, Poupard par exemple, donc qui est le dessinateur de la série Rugbyman, hein, dont le 7e tome vient d'arriver, vous l'avez croisé à une troisième mi-temps ou c'est parce que c'est la bande de potes qui était venue voir le match chez vous et c'était celui qui s'était endormi sur le canapé ou qui s'était réfugié un petit peu à part, roulé un truc pas catholique et qui est tombé sur « Ah, c'est marrant ça, je peux l'illustrer ».
Là, c'est moi qui vais répondre parce que c'est moi qui l'ai rencontré le premier en fait. Donc, Poupard s'appelle Alexandre Mermain. Mmh. On s'est rencontrés à Nancy, au salon du livre de Nancy. Je crois que ça s'appelle Le Livre sous la Place, un truc comme ça. Et donc, on s'est retrouvés assis à côté à dédicacer des albums qu'on faisait chez Vent d'Ouest à l'époque. On a sympathisé, on a fini la soirée ensemble dans un petit bar du coin. Et puis, en partant de là, lui m'a dit qu'il préférait dessiner. Moi, je dis que je préférais écrire. Donc, ben, naturellement, on s'est dit, mais pourquoi pas tenter le coup ensemble?
D'accord, c'est comme ça. Et finalement, ça a très bien marché.
Le choix d'une BD sur les sportifs, est-ce que c'est pour rentabiliser les dimanches devant Téléfoot et Stade 2?
Non.
Est-ce que c'est une excuse socialement valable au sein du couple?
Non plus.
Ah donc, c'est quand vous regardez Stade 2, c'est pas pour le boulot alors?
J'en regarde pas forcément.
D'accord. Au nom duquel de vous deux est adressé l'abonnement de l'équipe?
Aucun des deux.
D'accord.
Vous n'emportez pas de documentation à la maison.
Non, faites douper là, sans se
faire. Encore tout à l'instant. Mais à
alors, comment d'accord. vous faites justement? Est-ce que, puisque vous êtes dans un petit village, vous faites le tour des matchs de rugby incognito sans vous présenter pour noter, pour se dire ah tiens, pas mal ça comme astuce, la bière dans le truc de soigneur et tout ça?
Non, pas forcément non plus. On a, bon, quand on grandit dans le sud-ouest, on grandit quand même proche d'un milieu du rugby. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Donc nous, c'était des copains qui jouaient, des parents, de la famille et tout ça. On a vu, finalement, on a vu le rugby en tant que spectateur. Et c'est ça qui nous permet d'autant plus d'en parler et de le montrer dans la BD. On aurait été au cœur du truc, ça aurait été plus dur peut-être. On n'aurait pas vu forcément le côté...
C'est justement ce détachement-là qui vous permet...
Moi, je pense, ouais, ça y fait en tout cas.
Sinon c'est un peu trop, je vais dire, ce serait un peu difficile de se dire non, je ne peux pas salir mon sport.
Bon, on saura jamais puisque bon voilà, on n'a jamais joué, donc voilà, on est extérieur au truc, donc on le construit, ouais, on le raconte comme ça.
Je joue pas, hein, mais moi j'adore le foot.
Est-ce que vous recueillez parfois des retours du milieu sportif
Oui,
est-ce que vous êtes lu par les rugbymen par exemple?
Les rugbyman de petits clubs, oui, on a beaucoup de retours sur internet, sur le site Bambou. Après, les rugbyman qu'on a vu hier soir à la télé, je sais pas.
D'accord.
Les rugbyman, c'est une série qui marche bien. Vous avez tenté des petits bouquins à côté. Il y a un quiz qui est sorti, je crois, il arrive juste à temps pour le top 14. Pour le tournoi des destinations. Il y a eu aussi le calendrier des odieux du stade. Est-ce que c'est un clin d'œil sans conséquence ou parce qu'à force de se montrer à poil et dans les maillots roses, les joueurs du stade de Paris, quand même, ils sont un petit peu tarlouses?
Ah, c'est un clin d'œil, effectivement, aux dieux du stade, mais moi, je trouve que les dieux du stade... C'est pas mal comme calendrier, quand même.
C'était assez osé, quand même. Enfin, la charcutaille, comme ça, est allée en noir et blanc.
Ouais.
Et aujourd'hui, les clubs de foot sont surtout possédés par des émirs, les rugbymen sont de plus en plus ultra-professionnalisés, le grand public a de plus en plus tendance à voir ces sports plutôt comme des sports médiatiques et plus du tout comme des sports champêtres. Est-ce que vous êtes toujours en adéquation avec justement cette idée des rugbymen vraiment de campagne par rapport à une idée de gens qui voient surtout le rugby à travers le calendrier justement?
Bah oui, quand même, parce que le rugby se limite pas aux quelques clubs du top 14 qui brillent à l'heure actuelle. Tous les petits villages du coin ont leur équipe et de plus en plus continuent à se monter, et c'est ce qu'on raconte nous. Bah, cela dit, ils sont quand même pas ultra professionnalisés non plus au niveau des footballeurs, etc. Ils gardent quand même un peu cette part de déconnade, on le voit. On n'a qu'à voir lors des victoires du stade, hein. Ça va, si on est dans le même resto qu'eux, il se passe des choses quand même.
La tradition foie gras cassoulet a encore des beaux jours.
On espère, hein.
Alors je voyais du sport s'exciter, à mon avis, il avait des questions peut-être.
Non, pas de questions. Enfin, je voulais abonder dans ton sens, hein, comme quoi, bah, surtout dans le sud-ouest, hein, on dit le rugby du sud-ouest, mais c'est vrai que bon, bah, dans chaque petit patelin, t'as les équipes de gamins, les équipes seniors, même des équipes vétérans des fois, mais bon, bah, ok, c'est quelque chose de très, très, très vivant, hein, qu'on trouve. Bien entendu pour le football dans les autres régions, hein, mais la particularité ici dans le sud-ouest, c'est que vraiment dans le moindre petit patelin, t'as au moins une équipe de rugby. Ça c'est clair et net de toute façon. Et il faut savoir que c'est pas pour rien qu'il y a un quotidien qui au niveau du sport concurrence un petit peu l'équipe ici dans cette région, c'est Midi Olympique.
Ouais, je me disais bien qu'il allait faire la pub pour la
dépêche. Alors que tu peux des fois aller chercher Midi Olympique dans certains kiosques à Lille ou à Nancy, des fois tu as un peu de mal, tu vois.
Alors Xavier, toi qui connais moins, c'est le journal jaune.
Oui, ça je sais, oui, qui paraît le lundi.
Voilà.
Hein, tu vois? Non.
Non, il y en a deux maintenant.
Ah mince. Ok. Non, le truc de la bourse peut-être, la tribune. Non, je ne sais pas. Vous avez fait d'autres séries à côté, puisqu'il y a, il y a les rugbymen, donc, que l'on parle depuis le début, qui est une série qui est plutôt bon enfant, mais vous faites aussi les footmaniacs et les fonctionnaires. Les footmaniacs, là aussi ça parle de sport, mais c'est un petit peu plus amer. Quelle est la différence qui vous fait préférer un sport plutôt qu'un autre? C'est un problème finalement avec ce que sont les supporters de foot eux-mêmes?
En fait, déjà, on n'a pas créé nous-mêmes la série Les Footmaniacs. C'est Olivier Sulpice qui en est l'auteur.
Qui est le patron, en fait, de Bambou Édition.
Et en fait, c'est lui qui a mis le temps au départ. Mais après, c'est vrai que nous, en tant qu'habitants du Sud-Ouest, on préfère le rugby au foot. Hein.
Vous lui avez fait comprendre. Vous lui avez dit, ah ben non, c'est pas méchant, vers le foot, c'est ce que c'est.
Non, ça s'est pas passé comme ça. Disons qu'on essaie de faire notre travail en tant que professionnel le mieux possible. Après, c'est sûr que bon, voilà, nos affinités et puis notre histoire est plutôt liée au rugby qu'au foot. Enfin, on n'a rien contre le foot. Ça peut être un sport magnifique hein, qui rassemble un peu la planète dans certains cas. Pas toujours les bombes, mais des fois oui, quand même.
Oui, c'est ce que j'allais dire à côté de cela. Donc, vous êtes scénariste des Rugbymen, vous êtes scénariste des Footmaniacs. Faites aussi de la bande, ce que certains appellent de la bande dessinée corporatiste, hein, les fonctionnaires, alors que franchement, quand même, vous les étriez bien. C'est quand même trois blockbusters, meilleure vente de votre éditeur. Alors, avec autant de séries à succès à votre actif, est-ce que vous avez proposé à Olivier Sulplice une offre de rachat ferme de sa maison d'édition?
Non, ça va. Vu le travail qu'il a là-bas, on le lui laisse.
Vous êtes bien content finalement, mais le fait que ça soit justement un auteur qui est éditeur en lui-même, est-ce que ça amène des facilités de dialogue de ce côté-là?
Oui, parce qu'il est...
Parce que vous avez déjà travaillé avec Vent d'Ouest et
ouais,
tout
mais
ça.
D'autres, Casterman, tout ça. Mmh. Oui, Olivier est très très ouvert au dialogue, c'est très important pour lui, ça, il communique. Chaque fois qu'on appelle, on peut l'avoir au téléphone, sauf s'il n'est pas là, évidemment. Mais ce qui n'est pas évident chez les autres éditeurs, c'est très très précieux, très rare, il y tient à ça. Et sûr que ça y fait, oui, qu'il était auteur, mais il est polyvalent, il a tout fait en fait, Olivier. Quand il a lancé sa boîte, il faisait lui-même les couleurs, il a fait tout. Il suivait l'album du petit crayonné qui débute le scénario jusqu'à chez l'imprimeur.
Et ça, là-dessus, donc vous en êtes très content. Vous ne les changeriez pas, même contre deux barils de n'importe quoi.
Ça dépend, c'est quoi les barils.
J'aimerais bien savoir. Même si votre fiction ne se base pas sur des événements réels et que les personnages sont totalement fictifs, est-ce qu'il y a malheureusement des gens qui sont reconnus et qui vous ont dit « Ou quand même, voilà, vous m'avez un petit peu massacré dans le bouquin ». Ça vous est jamais arrivé?
Non, jamais.
Et dans les séances de dédicaces, comme celle qui aura lieu tout à l'heure à 15h à Librairie Album, quel est le public qui vient? C'est plutôt un public de jeunes, un public familial, un public de connaisseurs de rugby ou des gens qui le découvrent par le biais de cette BD?
Tout le monde vient en fait, tout le monde, pardon. Tous les publics. Tous les publics. On a été surpris de ça au début. Ouais. C'est vrai qu'il y a les papis purs et durs passionnés de rugby, il y a les gamins qui jouent à l'école de rugby. Il y a beaucoup de filles hein, pour leurs copains rugbyman, leur papa rugbyman, pour elles, des fois des joueuses aussi. On a été surpris du très large éventail de gens qui lisaient le rugbyman d'ailleurs.
Quand vous écoutez Daniel Herrero à la radio, est-ce que vous dites pas quelquefois, mais c'est pas possible, on pourra jamais le retranscrire en BD?
Bon, aussi, on se le dit, ouais, parce que c'est vrai qu'il est quand même sacrément bon, sacrément efficace pour ça. Mais c'est pas la même chose. Bon, nous, on écrit, c'est nous, il faut qu'on synthétise en plus. On n'a qu'une page pour raconter des fois une action entière, une mêlée, un ballon qui ressort, tout ça, c'est pas évident. Alors lui, il peut se régaler le long des phases de jeu, il peut faire de la littérature, lui.
Depuis que vous avez lancé cette série, le rugby en France est réellement professionnalisé. Avant, c'était plus ou moins clandestin. Là, maintenant, ça y est, il y a le top 14, il y a les professionnels reconnus et tout le reste. Est-ce que votre vision, justement, du rugby, de ce côté-là a beaucoup changé? Est-ce que maintenant il y a des choses qui vous disent vous aimeriez bien aussi attaquer le milieu professionnel d'un autre côté puisque c'est plus le petit côté club du week-end?
Non, on n'aimerait pas s'attaquer au rugby professionnel, c'était pas du tout notre intention au départ. Et en plus, bon, à travers les rugbymen,
ça n'existait pas au départ d'ailleurs.
Si, ça existait déjà. Ça existait. Mais à travers les rugbymen, on veut aussi parler de la vie dans la campagne, des agriculteurs. Donc c'est pas que les rugbymen qui transparaissent dans cette BD, quoi.
Les rugbymen, Thomas, tu peux reciter le... c'est toi qui as le bouquin. Oui, je suis désolé. Hein. Voilà, les rugbymen, donc scénarisé par Becca, dessiné par Poupard, dont le 7e tome est sorti aujourd'hui, officiellement.
Non, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement.
Claude.
Là, on a la chance. Là,
on a un libraire sous la...
Voilà, Claude, s'il te plaît, tu nous dis quand est-ce qu'il est sorti?
Il y a une quinzaine de jours.
Donc voilà, donc je l'ai loupé depuis un bail. Le résultat, on s'en fout. Ce qui compte, c'est.
Non, le résultat, on s'en fout. Il faut gagner.
Voilà. Soyons bah oui, rigoureux. Non, mais la police, j'ai du mal à le lire, tu vois, d'aussi loin. C'est chez Bamboo Édition. Oui,
le titre, c'est pas Eurosport. Hein.
Là, tu vas être obligé de citer deux autres chaînes sportives.
L'équipe après. TV et.
Ah, bonne chance, hein. Sport Plus, allez, voilà, ouais. Je t'ai aidé. Sinon, on va pas s'en sortir. D'un autre côté, vous êtes en tournée de dédicaces. Est-ce que vous faites juste finalement les festivals au petit bonheur, la chance, invité par les copains?
Non, on fait pas de tournée de dédicaces, on vient juste voir Claude et c'est tout.
Et faire le plein de BD, d'accord. Okay.
Il a gagné le tirage au sort.
Du sport, toi, ton impression sur la série jusque-là?
Moi, ouais, ça va. Mais disons, bon, ce qui est marrant, c'est que comme moi, je viens pas du sud-ouest, que c'est plus ou moins un monde que je découvre, surtout le monde dont tu parlais avant, quoi, savoir le monde qui est à côté. C'est-à-dire, il y a tout ce qui se passe à côté, pas ce qui se passe sur le terrain, parce qu'en fait, c'est régi par des règles qu'on connaît à peu près tous, bien qu'elles changent tout le temps, et que la plupart, on en a rien à foutre. Mais justement, quoi, la vie dans les petits patelins et tout, cette espèce de vie en dehors qui est très souvent délaissé d'ailleurs par les autres médias, hein. C'est vrai, c'est très rare d'avoir un film sur des mecs qui habitent dans la campagne, préfèrent l'action des villes et tout ça, quoi. Et moi, j'aimerais quand même vous poser une question. C'est que pour la conception, comme vous n'avez pas été rugbyman, même par le passé, en étant jeune comme ça, que vous n'avez pas vraiment pratiqué, que vous n'avez pas pratiqué un petit peu assidûment, on va dire, le rugby, les sources qui donne naissance justement à vos espèces de délires, elles vous viennent de vos proches, des racontars qu'on peut vous faire, des histoires que vous avez entendues dans la famille, près de proches qui sont eux justement presque dans le folk d'action ou qui sont dans le folk d'action.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, moi, mon père jouait au rugby quand il était jeune. Tous les amis de Bertrand jouaient au rugby. Moi, tous mes copains de classe jouaient au rugby. Donc le rugby. J'y ai pas joué, mais
t'as bien baigné dedans depuis le départ, quoi. Voilà, quoi, c'est ça, c'est pour ça. Bon, donc c'est quand même un petit peu plus facile. Au moment de commencer cette série, sachant que vous êtes du coin, que vous êtes du cru, et que les rugbyman, comme Xavier le précisait au départ, est quand même au départ bien chargé de tradition, mais de tradition d'une région. Justement, vous n'avez pas un petit peu pensé que si succès il y avait, si au niveau de la commercialisation des albums, si succès il y avait, il ne serait pas un petit peu limité géographiquement, parce que il y aurait, on pourrait dire, quelques private jokes, quoi, qui seraient plus ou moins incompréhensibles par le reste des lecteurs, hein, qui ne sont pas du coin et qui connaissent pas trop un petit peu les us et coutumes.
Tu sais, au début, quand on démarre, t'es tellement content qu'un éditeur veuille te laisser faire ta BD que tu penses pas, mais alors pas du tout à tout ça, quoi. C'est ça, ça vient après. Et c'est vrai qu'après coup, on se dit finalement, ouais, est-ce que. Tu vois, on a eu un doute, par exemple, sur l'entraîneur. On le fait parler en roulant les R. Et c'est pas évident à lire pour des gamins, par exemple. Donc, on a vraiment réduit les triple R. On lui met 3 R à chaque fois quand il y a qu'un seul R dans le mot. Ça, après coup, on s'est demandé est-ce qu'on a eu raison ou pas. Mais au moment, c'est sorti comme ça parce qu'on a envie de se marrer, ça nous plaisait. Bon, on s'est pas posé toutes ces questions. Puis tu penses pas que tu vas avoir un succès quand tu lances un truc. Ou fais voilà tes barjots, mais tu t'y crois pas. Enfin, à l'heure actuelle, c'est pas évident, quoi. Il y a beaucoup de concurrence. Quand en plus tu t'embarques dans un style de BD qui est pas du tout le style de BD à la mode, que Bambou a relancé, mais qui était vraiment totalement décrié par les autres éditeurs.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, on n'a pas du tout pensé à tout ça. On a dit ça y est, on a notre chance, saisissons-la, éclatons-nous, amusons-nous, et puis on verra. On avait déjà préparé une nouvelle série parce qu'on pensait qu'à partir du tome 2, ça allait s'arrêter, quoi.
Mais justement, vous êtes chez Vendouest aussi, une classe. Ils ont une collection humour dans le même format, dans le même style. Ils vous ont pas dit pourquoi vous ne l'avez pas proposé.
Mais c'est-à-dire que Bambou a cette. Oui, quand Bambou est arrivé, effectivement, c'est Vendouest qui aurait pu lancer toutes ces séries, c'était le mieux placé, mais il réfléchissait trop, quoi, on va dire. Par exemple, la série Les Fonctionnaires, qu'on a reprise aussi, qu'on n'a pas créée, le dessinateur l'avait proposé pendant 3 ans, sans relâche, à Vendouest, qui disait « Ouais, faut voir, le comité de lecture n'est pas tout à fait sûr, tout ça ». Sulpice, il a lu 3 planches, il a dit « Ok, c'est parti, je le signe ». Voilà, banco, et dès le départ, il a fait... Enfin, ça a bien marché dès le départ, j'ai pas le chiffre en tête, mais... Bon, voilà, pendant que les autres réfléchissaient, demandaient leur avis à tout le monde, au comité de lecture, Sulpice, il s'est fié à son feeling, et voilà, le résultat s'est fait comme ça. Je pense que si on avait fait le rugbyman ailleurs, on serait encore en train de discuter sur le tome 2, et oui, quand, comment, pourquoi.
Voilà. Thomas, du sport, vous pouvez continuer, moi j'entame la 3e mi-temps, là, en fait.
Alors peut-être que vous n'avez pas envie de faire de la BD sur les sportifs toute votre vie, mais si on vous dit de suite là, vous avez coupé franche pour recréer une autre série sur des sportifs, c'est quoi que vous choisissez là, tac au tac?
Aucun, parce que là, niveau sport, ça va.
Et justement, si vous laissez carte blanche pour écrire sur le sujet que vous voulez, mais également aussi pour le support dont vous avez le plus envie. Quel serait le support, déjà ?
D'accord. En fait, moi, j'ai écrit des romans jeunesse, qui ne sont pas encore publiés, donc ça répond à la question que tu viens de me poser. Donc, ça serait moi, du roman jeunesse. Et le thème, là, en ce moment, j'écris un roman policier avec des enfants et des grand-mères qui mènent l'enquête. Voilà.
Très bien, et toi ?
Moi de mon côté, mais je le fais aussi, c'est-à-dire j'écris des scénarios. Maintenant, ben voilà, on a la chance de plus avoir non plus la contrainte et la pression économique de devoir produire à tout prix. Donc je me fais plaisir en écrivant des scénarios.
Le succès est confortable.
Et disons qu'il permet voilà, de voir sereinement l'année en cours, on va dire. Mais donc voilà, je me fais plaisir, j'écris de mon côté, et je me régale parce que j'écris un peu comme j'écrivais quand j'étais ado, c'est-à-dire sans me dire, ça va être publié, ça va être lu, il y a un éditeur qui va donner son avis, un commercial qui va donner son avis, un libraire, pardon Claude. Je me fais plaisir pour moi, et vraiment, je m'éclate comme un fou, je suis très content. Après, peut-être que ça sortira, qui sait, mais d'abord j'écris, puis on verra par la suite.
Ouais, mais t'aurais pas un support privilégié, je sais pas, la télé, le cinéma...
Voire même en dehors de la BD, le manga.
Les livres.
Tu lis. Ah, manga, j'en écris un pour me faire plaisir. Aussi pareil, mais celui-là, bon, je le présenterai à personne. C'est Renaud Lemaire, un des rares mangaka français, qui est un copain qui est sur Montpellier, qui nous a fait découvrir le manga. Et suite à ça, je me suis dit, je vais m'amuser, je vais écrire un petit scénar de manga. Bon, j'ai écrit le début, ça doit faire un tome et demi à peu près, je vais en rester là. Mais je me suis fait plaisir comme ça.
Ah oui,
aussi.
Donc c'est petit quoi.
Ouais, voilà.
Guillemets. Mais c'est pas du tout les mêmes contraintes. Les rugbymen, les footmaniacs que donc vous avez abandonné, il y a Studio Danse aussi à côté de cela. Est-ce que vous pouvez présenter justement Studio Danse qu'on n'a pas chroniqué dans cette émission?
Studio Danse, bah, c'est une BD destinée plutôt aux jeunes filles quoi.
Le fait que tu parles, Caroline, on voit qui c'est qui est motivé derrière.
Non, mais en fait, bon, c'est vrai que au départ, je devais le faire seul, mais bon, je préférais que Bertrand m'aide un peu, parce qu'on avait fait de la danse ensemble aussi. Donc c'est une BD destinée aux jeunes filles, donc qui trois copines qui font de la danse, danse classique, danse moderne, et dans le tome 3 qui sortira en avril, danse africaine, puisque nous connaissons bien le sujet avec Bertrand. Voilà.
Pareil, là aussi, on s'amuse quand même à développer l'univers des gamines, des ados. Au-delà de la danse c'est un peu le thème parce qu'il fallait bon, qu'on s'impose comme, en tant que série, il fallait trouver un petit fil conducteur pour pas que tout le monde raconte la même chose. Mais au-delà de ça, on s'amuse à montrer la vie des ados, leurs petits soucis, leurs travers. Là, on s'est bien marré avec le dernier, avec une dont les parents sont divorcés. Étant donné que nos parents sont divorcés à nous, on a pu un petit peu raconter nos mésaventures à travers elles. C'est assez marrant à faire. Ça change du rugby.
D'accord. Becca, en tout cas, merci beaucoup. On va vous laisser parce que ça a dû vous mettre en appétit quand même l'apéro et vous devez avoir envie d'aller casser une graine.
Ouais, merci, ça va. En plus, j'ai les olives à côté, ça symbole.
Mais c'est surtout toi qui as mangé le saucisson quand même.
Ouais, non, mais c'est pour ça que les questions étaient hésitantes tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous remercie. On vous. Je crois qu'il y avait une sortie tout à l'heure, enfin il y avait une chose sur laquelle on était plus ou moins d'accord tout à l'heure, c'est que populaire ne veut pas dire forcément bas de gamme ou mauvais, au contraire. Là-dessus, c'est un petit peu injuste, hein, je veux dire, le succès des rugbymen est un succès de vente, mais on en parle relativement peu, alors que derrière, ben justement, il y a vraiment une joie et un plaisir à sortir cet album, et on le ressent réellement, en tout cas. Sincèrement, merci beaucoup de nous le présenter.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Merci, ciao. Les Malpolis.
Souviens-toi quand t'étais gosse, ce cousin qui t'énervait tant, celui qui était peigné en brosse, qui avait le collier de Raon. Tu sais, celui qui aimait les animaux, qui avait toujours l'air bien dans sa peau, qui avait ce sourire de gros gland que tout le monde trouvait si craquant. Le cousin qui avait toujours la cote, qui avait déjà une petite amie, un badge touche pas à mon pote et le disque pour l'Éthiopie. Qui avait fait sa communion, qui était bon en mathématiques, qui avait ce sourire à la con, que tout le monde trouvait angélique. Celui qu'on te donnait en modèle, quand t'avais fait une connerie, mais t'piquait tes sous à Noël, que vous filez papy et mamie, et profitait du chahut de vos jeux pour te coller de véritables beignes, puis qui racontait des trucs affreux sur ta mère pour pas que tu la ramènes. Ben je suis sûr que comme moi tu t'en croyais débarrassé. En grandissant tu l'avais de moins en moins vu et puis oublié. Mais voilà il est revenu, tu l'as reconnu à la télé. L'affreux cousin faux cul sous les traits de David Douillet. C'est un gars tout simple en vérité, tous ceux qui le connaissent vous le diront. Malgré la gloire et le succès, ben il a su rester bien con. Il disait comme ça que le sport, pour lui c'est l'école de la vie. Que ça rend droit heureux et fort et qu'il fallait tous faire comme lui. Douillet c'est un peu Berlusconi qui serait devenu prof de philo. Mais quand il parle d'injustice, alors là c'est carrément Zorro. Là un gros cœur de gros costaud trouve que c'est malheureux le malheur. C'est Mère Teresa en kimono, Godzilla au pays des fleurs. Il aide toujours les petits vieux à traverser la chaussée. D'ailleurs il en connaît bien deux qui habitent vers l'Elysée. Et qu'il veille sur eux, c'est très bien. Ce garçon est vraiment un ange. Dans quelque temps, on espère bien qu'il leur portera des oranges.
Becca, donc, qui est venu, qui nous a fait le plaisir, donc, le couple scénariste, donc, des rugbymen, sera en dédicace tout à l'heure à partir de 15h. 15h30 normalement à la librairie Album pour ceux qui nous écoutent en direct sur la FM, sinon pour le podcast et tout ça, ben je vous invite à aller découvrir ce bouquin. Ouais, je sais, certains disent dans les linéaires de supermarché, mais en fait non, ça vaut vraiment donc la découverte. Je vois que tout le monde est en train de...
Bonjour, non, non, non. Bonjour, moi je suis là et puis j'écoute et puis je parle pendant que les autres clignotent et qu'ils en profitent. Et qu'ils ont raison. Et
ils ont raison, voilà, c'est la troisième mi-temps, je vais dire, de l'émission, c'est aussi le moment bouffe. Thomas, bah, fais attention quand tu vas l'ouvrir.
C'est le moment des doigts gras.
Alors là, celui-là, si tu me le salis, attention, hein, c'est... Oui, j'ai enlevé la jaquette qu'il y a dessus, donc vous ne pouvez pas le reconnaître. Il s'agit
c'est
donc...
Madame Simmons.
C'est Madame Simmons, Posy Simmons. Tamara Drew, qui donc est sortie chez De Noël Graphique il y a pratiquement un an, hein, quand même, je dois l'avouer. Mais en tant que sociétaire du prix de la critique de la CBD, je suis obligé d'en faire une chronique. Non, je dis pas je suis obligé, mais j'ai pris mon temps pour le lire.
Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'elle est venue sur la scène du Festival d'Angoulême pour recevoir son prix. Et donc, il y a
un autre prix, hein, c'était pas le prix de la CBD.
Oui, voilà. Et donc, je crois que c'était le maître de cérémonie qui dit: alors, est-ce que vous parlez français? Je sais plus. Et elle répond, je suis archi contente.
Et oui, puisqu'elle a fait des études quand même à la Sorbonne. En 68, donc inutile de vous dire que libération sexuelle et tout ça, elle y connaît un petit peu. Posy Simmons, dans Tamara Drew, il faudrait parler de Posy Simmons, l'auteur, en premier. Le problème, c'est que dans ma chronique, je l'ai foutu en dernier. Voilà, donc je vais commencer par parler de la BD elle-même. Tamara Drew, ça se passe dans la campagne anglaise, désertée de ses paysans et où la bourgeoisie s'est installée. Beth Hardiman vit dans une gentilhommière, vous savez, une de ces grandes fermes transformées en confortables demeures... les origines paysannes sont plus des marques d'un certain chic qu'une référence avec le travail de la terre. Le mari de Beth, Nicolas Hardiman, est un écrivain à succès de romans policiers, maintes fois adaptés à la télévision. Beth a une passion dans la vie, les gens de lettres, les écrivains à qui elle propose en location l'un de ses 8 studios aménagés dans sa ferme. Et elle est nourrie, elle refait leur lit, tape leurs manuscrits, répond aussi des fois aux lettres, voire au téléphone. Mais l'arrivée de Tamara pourtant, dans cette jolie campagne anglaise aux couleurs acidulées, tout n'est pas si rose. Ça n'est pas la première fois que Beth est trompée par Nick, son mari, que celui-ci promet... en pleurs que cela n'arrivera plus jamais et que Beth, après avoir menacé de le plaquer, se laisse attendrir. Mais l'arrivée de Tamara dans le voisinage, ex-fille du village, mais surtout éditorialiste, star des colonnes People d'un journal branché, font craindre à Beth que son veau ne change d'herbage. Le démon de midi frappe à sa porte. Car Tamara est connue pour être une citadine libérée, libertine et assez ouverte. Et cette jeune femme qui a « réussi » entre guillemets a droit à l'admiration des ados comme Jody, qui elle aussi aimerait partir de ce village qu'elle trouve sinistre, sans aucune distraction ni aucun avenir. Car ce n'est pas parmi ces garçons lourdeaux et crétins que Jody se voit fonder une famille.
«
Les acteurs posés dans cette peinture cherchent l'amour et ne trouvent que déception et frustration. Potentiellement, ils sont tous à deux doigts de passer la ligne jaune. Certains le feront sans aucune classe, d'autres trouveront les moyens d'apaiser la situation. Mais on sent que la marmite boue intérieurement. On est à 10 milieux de plaisanteries, de théâtre de boulevard. Les personnages ont un vécu, une épaisseur, des motivations, des désillusions. Ce charmant creuset qu'est la campagne anglaise mélange intimement des composants détonnants. À tout moment, le lecteur s'attend à ce que cette situation de mœurs, cette comédie humaine, ne vire au malheur. Et ne ce que débarque l'inspecteur Barnaby qui va débusquer les secrets de tous ses voisins si tranquilles que l'on voit tous les samedis pour la partie de cricket. C'est un bouquin très dense. Ce n'est pas vraiment une bande dessinée, ce n'est pas non plus vraiment un roman, mais réellement une graphic novel, à la croisée entre les deux. Les parties narratives sont en fait les citations des journaux intimes des protagonistes, et les cases, eh ben, en fait, ce sont les dialogues entre les personnages. Après Gemma Bovary, c'est une autre, je vous laisse deviner d'ailleurs à quelle adaptation il s'agit, c'est une autre adaptation littéraire de ce format si particulier de narration que semble affectionner Posy Simmonds. Loin de la foule déchaînée, un roman de Thomas Hardy. Et cette dessinatrice anglaise est une star qui illustre les colonnes du quotidien de qualité The Guardian depuis pratiquement 40 ans. Et sa cible favorite, celle des intellectuels bien pensants de gauche, est aussi une des principale victime de ces BD que son propre lectorat. Qui le lui rende bien en la lisant. Et Posy Simmonds a aussi eu droit aux honneurs, étant décoré Member of the British Empire, qui est un peu l'équivalent, je vais dire, de la Légion d'honneur en France, je vais dire un peu, à peu près, et étant aussi sociétaire de la Royal Society of Literature, qu'on pourrait presque dire que ce serait finalement l'Académie française si eux, justement, ne s'embarrassent pas d'écrire un dictionnaire des termes officiels. Posy Simmonds recevra le prix de la CBD 2008, donc l'association des critiques de la bande dessinée, pour Tamara Drew, lors du Salon du Livre à Paris qui aura lieu dans 15 jours, au moment où je vous parle, par la CBD, qu'elle a déjà rencontrée à Angoulême en janvier dernier. Elle a rencontré, pendant que nous faisions l'émission en direct à quelques mètres de là, Conseil Général. Posy Simmonds, Tamara Drew, c'est chez De Noël Graphique. C'est le coup de cœur des critiques cette année. C'est aussi un coup de cœur pour moi. On prend son temps à le lire et on se dit, mais quand l'inspecteur Barnaby va débarquer dans cette jolie peinture? Ah ah, je n'en dévoilerai rien. C'est en train de discuter, donc on reprend peut-être justement à propos des Césars, hein. Savoir un peu la bouche pleine, c'est beaucoup plus drôle. Voilà, donc les ch'tis qui, est-ce que oui ou non, il y avait vraiment une aigreur derrière. Moi, je pense quand même qu'elle était un petit peu contenue, mais ils savaient plus trop comment se tenir justement par rapport à ça. Oui. Après, c'est vrai que De Cohn l'a beaucoup, beaucoup soutenu derrière.
Est-ce que cette cérémonie que je n'ai pas vue, est-ce qu'elle était bien? Est-ce que De Cohn a été bien? C'était rigolo?
De Cohn a été bien. Ça n'a pas été franchement rigolo.
Si, les César Bio, moi j'ai beaucoup ri.
Ouais.
Alors, est-ce qu'à chaque fois il y a toujours des sketchs de comiques de Canal+, alors Stan Estepki, c'était
Louise Bourgoin et l'autre, sais pas qui c'était.
Julie Ferrier là, qui est venue dire bonjour. Moi je trouve ça très très bon, Julie Ferrier avec Emma Thompson. Alors je sais pas si Emma Thompson était au courant ou pas, ça on le saura.
Alors Julie Ferrier, est-ce que c'est elle qui a remis le court-métrage?
C'est elle.
D'accord. Et donc apparemment c'était un peu rock'n'roll.
Ah, c'était extrêmement rock'n'roll.
Non mais du sport t'en vas pas là, on va entamer les comics.
Déjà effectivement Decon l'a présenté comme quelqu'un d'autre, comme future actrice de ses prochains temps, très bien. Et on voit Julie Ferrier qui débarque avec un sein plus ou moins à l'air. Alors chose que m'a dit Carole, il paraît-il que c'est son mimique, ça lui arrive de temps en temps de lui faire ce coup là. Et on l'a vu, Emma Thompson un peu désemparée, on savait pas du tout. Franchement je savais pas du tout si c'était le premier ou le second degré, si c'était calculé ou pas, si Emma Thompson jouait le jeu ou au contraire n'était pas du tout au courant. Et on a vu Emma Thompson qui était au premier rang sortir de ses gonds, aller sur l'estrade, remettre la tenue de Julie Ferrier bien en ordre et puis repartir. Et Julie Ferrier a carrément répondu, a fait son speech carrément à l'ouest et elle était vraiment très forte.
D'accord.
Du sport, dis-moi que dans l'univers des comics, dans l'univers du cinéma hollywoodien, il se passe quelque chose.
Non, c'est plutôt dans l'univers des éditions de périodiques comics, c'est-à-dire chez Panini, en l'occurrence, et concernant les Marvel, car voilà le numéro 1 de Marvel Saga. Alors, pour les plus anciens, ils vont se dire ouais, ça nous rappelle des trucs d'il y a très longtemps quand on regroupait les histoires des différents super-héros, de groupes de super-héros, et qu'on appelait
Strange, ça,
Saga, X-Men, Saga, machin, Miss Marvel, Saga. En fait, c'était des histoires qui étaient collées ensemble. Là, le concept est un petit peu différent. Et en fait, il s'agit d'une autre déclinaison des histoires qui sont difficilement publiables dans les périodiques habituels, à savoir dans les X-Men, les Astonishing, Spider-Man et autres. Ce sont des histoires qui sont plus ou moins complètes et donc qu'on peut faire figurer dans des numéros hors série tels que Marvel Heroes hors série, hein, on a déjà eu 3 ou 4 numéros, mais également dans les Marvel Icons hors série. Et d'ailleurs Marvel Saga est appelé à remplacer Marvel Icons hors série, qui ne paraîtra plus, et qui d'ailleurs avait déjà fait paraître les histoires du Punisher, car le premier numéro de Marvel Saga est entièrement concerne entièrement le Punisher sous la plume de Matt Fraction et de Howard Chaykin, donc duo choc quand même, ça dépote pas mal. Et donc dans ce premier numéro de Marvel Saga, on a droit à deux histoires complète d'histoire courte, hein, c'est-à-dire en un seul tenant, du Punisher, issu du volume 2 du Punisher War Journal, à savoir la Guilde des Survivants et comment j'ai survécu au bon vieux temps, suivi de trois histoires, enfin trois fois l'histoire de Puzzle, un méchant que le Punisher avait complètement dégommé, qui était un patron de la mafia et tout, qui l'a complètement dégommé et qui va s'habiller en Punisher pour dégommer des gens comme ça dans la rue pour faire croire que c'est le Punisher.
Ah, l'enculé, ah,
le salaud. Et en plus, qu'il lui met il met sa tête à prix, 50 millions d'euros. En plus, c'est assez rigolo parce que ils font tout un speech sur le fait que le dollar ça vaut rien, le machin et tout. C'est l'euro qu'il faut et tout. Enfin bon, les mecs à fond, quoi. C'est pas mal. Donc, je mets 50 millions, faut me ramener sa tête et tout. Enfin, tout le bordel, quoi. Tout ça donc sous la plume.
C'est aussi parce que ça fait super vilain, hein.
Ouais, et Howard Chaykin. Alors, c'est pas mal. C'est l'histoire de Puzzle, donc en trois parties, hein. Donc, elle est pas mal. C'est des fois assez explicite quand même. Bon, c'est normal, c'est le Punisher, hein. Il y a même des scènes de pieux, tu vois, quoi, tranquille. Et moi, ce que j'aime bien.
Le pieux.
Oli.
D'accord.
Oui, Oli.
Oui, pour planter les vampires. Alors, moi, les demoiselles vampires.
Et en plus, moi, ce que j'aime bien, quoi, c'est par exemple dans la Guilde des Survivants, hein, l'angle qui est abordé au départ, quoi, par un ancien mec qui s'est fait dégommer par le Punisher et tout. Puis il se retrouve à des réunions telles que les réunions des alcooliques anonymes. Sauf que là, il s'agit de réunions d'anciens mecs qui sont fait taper par le Punisher.
N'importe quoi.
Ah, c'est assez rigolo.
C'est pas mal.
Ah bon, faut le faire, quoi, quand même. Ça démontre que bon, bah, ils vont chercher quand même assez loin. C'est pas mal, c'est très rigolo. Moi, j'aime assez le graphisme, hein, de toute façon, quoi. Ça passe assez bien. Bien que, on pourrait s'imaginer, s'agissant du Punisher, un graphisme et un climat un petit peu plus sombre. Là, c'est quand même bien coloré, c'est nickel et tout, c'est pas mal. Enfin bon, c'est hautement recommandable quand même. Donc c'est le Marvel Saga numéro 1 avec le Punisher War Journal, dont les précédents, parce que il y en avait déjà d'autres hein, concernant le volume 2 du Punisher War Journal, étaient déjà sortis dans le fameux Marvel Icon hors série dans les précédents numéros. Donc et ça s'est arrêté en décembre. Donc là, Marvel Icon hors série, c'est terminé, il n'y en aura plus. Hein, donc c'est remplacé par ça, par Marvel Saga.
Il y a, si je me trompe pas, un film Punisher qui est sorti, qui devrait sortir bientôt sur des écrans d'ailleurs.
Il est déjà sorti.
Non, il y en a eu deux, effectivement.
Oui.
Un avec Dolph Lundgren dans les années 80 et un autre dans les années 90.
Avec Travolta dans
Thomas Jane.
Ouais, Thomas Jane, ouais.
Et il y en a un prochain qui devrait arriver, si je me rappelle bien, incessamment.
Je crois que c'est Nick Cassavetes qui devait le faire, mais je ne suis pas sûr.
Bon, on
vérifiera. C'est à vérifier.
12h58 sur la poubelle des radios 89.1, c'est le supplément week-end et vu le retard que l'est, je suis vraiment désolé pour Duce, on va envoyer direct le jingle suivant.
Tiens, prends ça dans ta gueule, c'est une
Chronique Cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround. Pardon, JB, tu voulais le dire peut-être ?
Oui, quel va être le film d'action que veut nous chroniquer Thomas aujourd'hui ?
Il y a une question de fusil dedans, mais c'est pas un film d'action.
Tout à fait. Je t'attendais au tournant.
Il s'agit du nouveau Clint Eastwood, donc Gran Torino.
Yes.
Alors, il s'agit d'un film de et avec Clint Eastwood, puisque Clint Eastwood n'était pas apparu dans un de ses films depuis Million Dollar Baby. Il faut savoir que comme ça, de mémoire, quel est le dernier film dans lequel est apparu Clint Eastwood qui n'ait pas été réalisé par Clint Eastwood ?
Je dirais la retransmission des Oscars, comme ça.
Ah oui,
non, il s'agit de dans la ligne de mire de Wolfgang Petersen, qui commence à dater.
Oui,
début des années 90, je crois.
Ah ouais, il n'y a pas pu.
Non, le dernier film dans lequel il était apparu.
Avec John Malkovich.
Tout à fait. Alors, un film 2 avec Clint Eastwood, avec aussi Bivang, Anne Air et John Carroll Lynch. Il faut savoir que. Il est question d'une communauté asiatique qui s'appelle les Hmong et Clint Eastwood a fait un casting parce qu'il voulait être le plus réaliste possible et il a fait un casting auprès de cette communauté et la majeure partie des acteurs du film sont non professionnels. Pour ceux qui l'ont vu, JB, il y a le seul professionnel asiatique qu'il y a dans le film, c'est celui qui joue le cousin de Tao, le malfrat.
D'accord, voilà. Le chef du gang.
C'est le seul qui est suivi des cours de théâtre. Alors le film raconte l'histoire de Walt Kowalski, vétéran de la guerre de Corée, qui est un bougon raciste qui montre les dents au moindre asiatique dans les parages, surtout depuis que son jeune voisin...
Dis pas asiatique, on dit jaune.
On dit face de Nem dans le film. Depuis que son jeune voisin a tenté de lui voler sa grande Torino. Mais le jour où un gang s'en prend à la famille Hmong voisine, le papy empoigne son fusil et devient, bien malgré lui, un héros. Progressivement, il va donc se prendre d'affection pour les jeunes Su et Tao, les deux jeunes gens, les deux héritiers de la famille voisine. Alors, bon, de toute façon, ce qui a un fait marquant dans la carrière de Clint, c'est que jamais il va faire de rôle à contre-emploi. T'as toujours l'impression que c'est... Il tourne autour de 2-3 personnages, des anciens maîtres de guerre, des vétérans de guerre, ou des anciens flics, ou des... Et il y a toujours le... Il se fixe une droite lignée d'un personnage dans lequel il se sent bien. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment envie de le voir dans un autre personnage ? Bon, on peut dire oui, mais il est tellement bon dans celui-là.
Moi, j'ai l'impression qu'il essaie de le tuer, justement, ce personnage.
Ouais, mais bon.
Vu l'abondance, tu t'attends. Chouette, l'inspecteur arrive. Quand tu vas le voir, waouh, c'est un dramatique. C'est
à
pas
mon
du tout
avis,
un
c'est pas un personnage,
mais
c'est très cliché.
Bon. Oui, c'est surtout un personnage vieillissant. Il sait très bien que les gens l'attendent au tournant parce que tout le monde a en mémoire ses personnages et tout. Et il joue avec ça. C'est-à-dire qu'il va faire un personnage vieillissant. Et c'est comme si un personnage qu'on avait aimé dans un de ses précédents films il y a 20 ans, on le retrouvait là, à la retraite.
Ouais, moi je trouve que le personnage ressemble un petit peu au personnage qu'il y a dans un pitoyable, quoi, c'est-à-dire oui. C'est la même, un petit peu la même trame, le mec vieillissant qui a fait plus ou moins une croix sur sa jeunesse, qui a laissé pisser tous ces trucs, mais qui garde quand même ses fondamentaux, ses valeurs.
Oui, sauf que dans Impitoyable, c'est quand même un mec qui a commis les pires horreurs dans sa vie, qui a, comme il dit, à un moment donné, il a tué tout ce qui marche, court ou rampe sur cette vie.
Oui, oui, mais bon, dans Gran Torino, c'est pareil, parce que c'est un mec qui a fait la guerre de Corée.
Voilà, fait la guerre.
Il a également eu des horreurs.
Et qui a une grosse culpabilité qui est le fil rouge du film, puisque.
C'est asiatique, à gauche, il n'en dit pas des gentillesses au début du film, hein, mais
non,
au contraire. Hein,
bande de barbares, il fait gaffe à son chien parce qu'il dit ah, ils vont bouffer mon chien. Voilà, c'est assez rigolo. Et c'est vrai que quand on regarde les pitchs différents qui sont dispo un peu partout, c'est un personnage vieillissant qui est un peu sur le crépuscule de sa vie. Et c'est vrai qu'on a un peu peur à un moment donné que ça vient vraiment dans le mélo à fond, comme pouvait la deuxième partie augurer la deuxième partie de Million Dollar Baby, avec cette veine de Eastwoodienne actuelle où il te tire les larmes. Et c'est pas du tout, justement.
Quand je pense que quand Eastwood parle, enfin, met en personnage lui-même, c'est pas lui, il peut pas faire dans le mélo, dans le pathos. Et autant il peut le faire quand c'est.
Hilary Swank.
Hilary Swank ou Angelina Jolie, très bien. Je pense à l'échange. Autant on sait très bien. Lui ne peut pas, c'est pas son caractère au départ. Et le caractère du film, dès le départ, c'est quand même très humoristique tout le long.
Oui,
de manière assez acerbe.
C'est un film qui flirte constamment entre le mélo et le mélancolique et la comédie. Et c'est vrai que c'est plutôt la comédie qui sort plus que le mélancolique. Puisque ça, mais vraiment, t'as la banane pendant tout le film avec les horreurs qui sortent verbalement racistes. Il se cherche avec son vieux pote Rital, donc ils arrêtent pas de s'insulter.
Ah oui.
quand il va se recouper les cheveux, quand il parle à la famille asiatique, même quand il parle aux jeunes, il le prend pour un lent, donc il arrête pas de lui dire ouais, t'as pas de couilles, t'es une femmelette, tu sais pas comment t'y prendre avec les filles. Donc il va refaire son éducation, il va y trouver un job, il va essayer de le prendre sous son aile. Et ça, c'est vraiment des moments où la tendresse flirte complètement avec la comédie. Et tu es à un moment
la tendresse quand il l'amène au, enfin, pas trop spoiler, mais quand il l'amène chez le coiffeur, on a quand même une bonne leçon de
d'humanité. Oui, et la tendresse d'humanité virile.
Ouais, tendresse bordel, ça.
Oui,
c'est
mais
clair.
C'est une tendresse qui
virile,
vu dans les paroles de ce personnage là c'est de la tendresse, puisque c'est un mec qui a toujours qui s'est toujours exprimé de cette manière. Donc franchement, tu vas voir le dernier Eastwood, tu sais qu'il est bon dans ce personnage. Tu vas voir, bon voilà, le mec il a 78 ans, c'est un film coulé, le mec il t'assomme encore avec un film, voilà, c'est avec le petit rythme de le faux rythme lent qu'il y a dans le film, parce que quand tu vois, c'est une perfection d'horloger, comment les scènes s'enchaînent, les scènes s'enchaînent, oui, les scènes s'enchaînent. Donc voilà, c'est bon, un excellent Clint, encore une fois.
C'est un film de cul, ça, non?
Oui, peut-être, probablement. Alors, il faut savoir que cette semaine, ça n'a pas été fait en catimini, mais presque, en tout cas dans la stricte intimité. Il faut savoir que Clint Eastwood était de passage en France pour la promotion de ce film.
Ouais, il avait l'air quand même assez usé, donc à mon avis, c'est peut-être pour ça.
Oui, bah, de toute façon,
vu son âge.
Le film aussi. Est peut-être pris aussi comme il règle
on peut
les.
On ne peut pas trop en parler, voilà. Malheureusement. Ça serait trop dévoilé du film, mais c'est clair que c'est une sortie de scène qu'il nous propose, mais il essaie de sortir par la grande porte.
Et est-ce que vraiment il en a besoin après une carrière aussi fabuleuse que la sienne, surtout qu'il a su mûrir, parce que les films où il joue un personnage qui a vieilli,
je suis d'accord,
comme vous le dites, ça fait 20
souvent,
ans qu'il le fait.
Oui. Souvent, tu remarqueras que ce dont tu te souviens le plus, c'est la fin. Rater tous tes films, mais si le dernier que tu fais est bon, tu seras considéré comme un bon acteur, un bon réalisateur, etc. Je peux t'en citer plein. On prend la carrière, on va dire, puisqu'on va parler du foot, de Zidane. L'acte manqué qu'il a fait pour sa sortie de terrain.
2006.
Exactement.
Quand il a pas voulu rejouer.
Non.
Zidane, la dernière action qu'il aura faite sera une action négative, mais paradoxalement, c'est l'action qui l'a précipité dans la sphère des footballeurs. Je sais très bien comment ils ont fini et qui a participé à son mythe. Maradona, il a voilà le mec, il aura autant été connu.
Je sais qu'on est dans l'heure du sport, mais alors si on pouvait.
Oui,
justement.
Je dis, Maradona, il aura autant été connu.
On a la mort de Philippe
Joseph. Alors on va revenir au cinéma. Moi, je vois Scorsese qui essaye de faire, qui le dit ouvertement que il sait que ce sont ses derniers films et qu'il essaye de faire les bons films. Et je suis désolé pour lui. J'apprécie beaucoup Scorsese, mais je trouve qu'ils sont quand même moins bons par rapport à ce qu'il faisait à une certaine période.
Scorsese est différent parce qu'il essaie absolument, il a absolument essayé d'avoir l'Oscar dans les 10 dernières années parce qu'il l'avait jamais eu. Et
moi, je trouve que Eastwood essaye de faire une sortie de scène, mais franchement réussi. Puis en plus, Woody Allen essaye de se rattraper aussi, et c'est quand même correct ce qu'il fait. Mais bon.
Et ce qu'il y a de bien avec Eastwood, c'est que ça fait, comme tu disais Xavier, ça faisait 20 ans qu'il fait des films crépusculaires. À chaque fois, tu as l'impression qu'il a fait le tour de la question, et au nouvel opus, tu dis qu'il a pas encore dit tout ce qu'il avait à dire, et tu dis ah bon d'accord, bon ça c'est le crépuscule. Ok, ah bon il y en a un nouveau, ah ben oui bon ben ça c'était la sortie de scène. Après il y en a un nouveau qui arrive, oh là là mais oui bon c'est celui-là. Voilà c'est
à chaque nouveau crépuscule, tu te dis c'est le meilleur par rapport à tout ce qu'il a fait, alors qu'ils sont tous aussi bons les uns que les autres.
Alors je disais justement que je parlais de truc qui a été fait presque en catimini cette semaine, donc il était de passage en France. C'est l'occasion qu'ont choisi Thierry Frémaux et Gilles Jacob du Festival de Cannes. Ils disent tiens, nous on n'a jamais notre mot à dire quand il y a les remises de prix, donc on va lui attribuer une palme d'or d'honneur pour sa carrière. Il faut savoir que c'est une palme d'or qui lui a été remise dans la plus stricte intimité et en dehors de toute cérémonie.
C'est ça que j'ai pas compris.
Il y a deux autres palmes d'or qui ont été remis de cette façon à deux autres personnes. C'était seulement Jeanne Moreau et Ingmar Bergman. Donc voilà.
Il les mérite.
Ouais, mais est-ce que c'est justement ça n'a pas été fait un petit peu en cata?
En cata, oui, ou alors ce genre de cérémonie, ça sent un peu le sapin, mais bon, c'est... Attention, on va lui donner tous les prix parce que c'est con qu'il ait jamais eu de prix à Cannes, donc bon, avant qu'il meure.
Donc, Dustin Hoffman qui a reçu un César d'honneur va bientôt mourir, c'est ce que je dois comprendre.
Oui, c'est le principe, hein, d'accord. En gros.
D'accord.
Alors, on va rappeler la référence du film qui s'appelle Gran Torino, et c'est un film de et avec Clint Eastwood, et c'est il est à l'affiche depuis
mercredi dans les meilleures salles que vous pouvez trouver en ville.
Oui.
Et petit détail, une Gran Torino, pour ceux qui ne savent pas, c'est une voiture.
Voilà. Et c'est la voiture de Starsky Hutch.
Bah ouais.
D'accord. Ça, je savais pas.
Bah, c'est pas la même couleur.
Non.
Ah ouais, mais ouais, c'est Starsky.
Un petit tour par la Belgique avec petit bout de caoutchouc, les Snuls, pendant que les chroniqueurs s'expliquent.
J'ai revendu mes tétines pour un paquet de petits bouts de caoutchouc. peut dire qu'on tient le bon bout de caoutchouc. Bout de caoutchouc, bout de caoutchouc à mon petit chou. Un petit bout de caoutchouc, bout de caoutchouc, tout petit bout de caoutchouc à mon petit chou. Bout de caoutchouc, bout de caoutchouc, bout de caoutchouc, petit bout, tout petit bout.
Les Snuls alias les Nuls Belges, le petit bout de caoutchouc. Ce serait la compilation Les Snuls, bien entendu. Et quand même, Yves Frémion nous a dit que du bon de la compilation DVD qui est sortie, apparemment uniquement en Belgique. Et c'est bien dommage. Dus, qu'as-tu d'autre?
Ouais, dans ta besace. Encore dans le cinéma. Alors, c'est marrant parce qu'on fait pas trop de commentaires sur les Césars, hein, d'hier soir. Alors, comme j'ai pas suivi, moi j'ai préféré regarder le match.
Bah, en fait, c'est simple, c'est Séraphine à tout prix. Voilà.
Ouais, Séraphine.
À part Cassel pour son.
Par contre, paraît-il que la retransmission a été cryptée avant la fin.
Pas sur Freebox en tout cas.
Ah bon, ça doit être.
Peut-être sur la DSL, effectivement. Ouais, sur la TNT, pardon.
Ah, ok. Donc, c'était aussi pour signaler que ça, c'est les. Vous savez, c'est les Césars ou les Oscars qu'on remet, mais c'est juste le commentateur qui fait les trucs. Et on a également remis l'Oscar du. Et la meilleure musique, c'est quand même les Fatal Picard. Fallait le souligner. Qui ont fait deux meilleures musiques en fait, quoi. Ex aequo, en fait, les Fatal Picard, il y a Bienvenue chez les Ch'tis et il y a aussi Joséphine.
Séraphine. D'accord, ok.
C'est Fatal Picard, Séraphine.
Ouais. Hein,
bon, bah, comme quoi, hein, ils ont loupé de peu l'Eurovision. Voilà. Mais...
Donc, par ailleurs, les Brutus du cinéma ont été décernés. Alors, les Brutus, c'est un petit peu l'équivalent des Razzle Awards aux États-Unis ou des Gérard pour la télé.
C'est pour les mauvais,
bien
en fait.
Tu viens de me dire qu'il y a également des Gérard pour le cinéma. Enfin, bon.
Ils sont remis maintenant à la veille de l'ouverture du cinéma du Festival de Cannes.
Il va falloir vérifier ça. Tu sais ce que dit Xavier.
Ouais.
Tu veux parier, d'accord.
Par contre, pour les Brutus, tu reçois carrément une décompression de César, pas une compression, une décompression de César. Alors, le Brutus du meilleur film, La possibilité d'une île de Houellebecq.
Ouais.
La meilleure actrice. Alors,
c'est pire à chaque fois.
Non, c'est la meilleure actrice. C'est Ariane Askeride dans Lady Jane. Le meilleur acteur, c'est Louis Garrel dans La frontière de l'aube. Le Brutus de la révélation cinématographique, c'est l'ours dans Le voyage des Pyrénées. Brutus de la meilleure participation exceptionnelle, Gérard Lanvin dans Messrine. Brutus de la meilleure prestation technique, c'est la mèche de Françoise Sagan. Brutus de la meilleure affiche, Hello Goodbye de Graham Gutt. Brutus du meilleur film étranger, Australia de Baz Luhrmann. Et Brutus du meilleur César, Alain Delon. Logique. Voilà.
D'accord. Ouais. On va entamer sur un peu autre chose avec le Technicart qui fait un hors-série spécial geek intitulé 60 millions de geeks sur bien évidemment ce que l'on est, l'histoire secrète des geeks. Les geeks ont-ils gagné? Donc dans les deux réponses, parce que c'est un débat, hein, les geeks ont-ils gagné, dans les deux réponses ils disent oui. Mais le débat est dans la durée de cette victoire, à savoir c'est ouais non mais c'est qu'un phénomène de mode, et d'autres disent non mais ça va continuer, et surtout tant que les gens utiliseront Windows. Comment deviner qu'un acteur...
Deviner par tout hasard qui a pu acheter ce magazine parmi nous.
Eh ben voilà. Et perdu, c'est perdu la JB, c'était pas moi, voilà.
C'est la fiancée du geek.
Comment deviner qu'un acteur est réellement geek, où on
c'est
apprend
pour essayer de comprendre son homme.
Où on apprend
mais
que
ça marchera pas.
Où on apprend que quand même pour le tournage du pilote de mince, comment elle s'appelle?
Quelle série?
Qui? Quoi? Où?
La série sur la Une.
Ah, il y en a qu'une. C'est vrai qu'il y en a qu'une, alors.
Les experts.
La série sur la Une.
Non, là. Chuck. Chuck, que pour le tournage du pilote qui a été tourné dans un CompUSC, c'est un peu l'équivalent d'un planète Saturne, ils ont été obligés de tenir l'acteur à l'écart de tout ce qui est console et démonstration de jeux vidéo, parce que sinon tu le mets devant, il peut plus s'arrêter, et puis voilà. Il y a donc comment deviner qu'un acteur est réellement geek, avec à ce sujet une interview de Mila Kunis. quand même, s'il vous plaît. Cyprien, le personnage d'Elysée Moon, peut-il draguer efficacement? Le geek est-il devenu une icône sexuelle? Des chicks geeks, c'est-à-dire des geeks filles et mignonnes. Et un quiz en 42 questions. Et ainsi que des interviews de Guillermo del Toro, Gigi Abrams, Billy Mitchell alias King of Kong, le vainqueur du. Celui qui tient toujours le meilleur score à Donkey Kong, le jeu vidéo, oui.
Et lequel, celui de plateforme?
Oui, oui, celui d'arcade, voilà. Et Michael Chabon et Alan Moore, qui est l'interviewé star quand même de ce Technic Art.
C'est qui,
en vente 4,90€.
C'est qui Alan Moore?
Oui, parce que si tu sais pas quand même que ce mec est un spécialiste de l'écriture de polar, mais surtout qu'il a rédigé, je crois que c'est Lost.
Qui Alan Moore?
Michael Chabon, je sais qu'il a, il intervient dans pas mal de séries. J'ai oublié lesquelles. Et une chronique de Chloé Delhomme, j'ai épousé un geek et à ce qui paraît ça me ressemble énormément, je ne veux pas savoir. Geek, Technic Art 60 millions de geeks,
ah bon,
en série, sorti donc le mois de
ce
mois-ci, 4,90€ en kiosque.
Pour moi, un geek, c'est un gentil.
Bah oui, bah, je suis désolé, mais je serais nerd, je ne ferai pas une émission de radio et je n'aurai pas une vie sociale.
Une
contrairement
vie,
à toi. Voilà.
Ça, ouais, là, coupe-moi le son, vas-y. Moi, effectivement, j'ai des clients.
Déconne.
Du Street Fighter.
Je vais te faire bouffer. Ouais, c'est clair. Street Fighter qui vient de sortir cette semaine, je vous le rappelle, le 4.
Oui, le 4.
Je vais l'essayer.
On parle pas au cinéma, on parle en jeu vidéo. Du sport d'un autre côté, puisqu'on parlait de geek, on va peut-être parler de fantasy.
Ouais, un petit peu de fantasy avec le décès assez récent de Philippe José Farmer. Dont on a parlé ici et là de temps en temps dans cette émission même c'était quand même un vieux de la vieille hein, 1918 janvier 1918 son mois de naissance donc ça lui faisait carrément ouais 81 ans il a passé les 81 ans il était derrière déjà
90 tu sais plus compter oui 90 ans
90 ouais c'est ça ouais excuse-moi 90 il était déjà arrière-grand-père hein, ce vénérable Philippe Joseph Farmer dont le premier roman paraît dans les années 50 en 57 Le Masque Vide puis en 1960 Des Rapports Étranges et dans son écriture il commence déjà à faire choc, à faire sensation. Pourquoi? Parce qu'il commence à introduire un petit peu d'érotisme comme ça dans son bouquin Les Amants étrangers en 61. Puis il oriente un petit peu vers la science-fiction, vers la science fantasy. On notera un peu plus tard, vers la fin des années 60, où là c'est l'explosion. Là, il se libère carrément. Il y a on va dire même presque de la pornographie quoi dans certains de ses bouquins tels que comme dans le bouquin Blown traduit Gare à la bête en 68 et sa suite The Image of the Beast traduit comme une bête paru également en 68-69 hein, où ça raconte les histoires d'un détective dans San Francisco un petit peu apocalyptique. Il y a tellement de smoke que tu peux pas sortir sans le masque à gaz. Mais bon, il lui arrive une histoire pas très nette parce que bon, il était avec une nana et puis bon, la nana elle lui bouffe la bite, mais parce que c'est une nana vampire. Et donc tu vas se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui meurent ou qui perdent des organes comme ça. Et il va mener l'enquête et il va tomber sur une race de vampires aliens impitoyables qui viennent de leur planète comme ça, mais qui sont des fois les incarnations de personnages célèbres ayant vécu dans le passé, c'est-à-dire Jeanne d'Arc, enfin des trucs pas possibles quoi. Il commence à être un petit peu, il est assez familier d'ailleurs avec cette espèce de mélange des genres où il va reprendre des personnages réels ayant vécu ou des écrivains ou alors des personnages fictifs mais qui sont devenus des héros. Il va les rassembler comme ça, faire des équipes pas de super-héros mais des équipes complètement improbables, un petit peu la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais bon, poussé à son paroxysme.
Encore plus n'importe
encore
quoi.
Encore plus, parce que bon, dans la légende, par exemple, d'Alan Moore, ok, on prend des personnages fictifs, quoi. C'est pas des personnages réels, c'est que des personnages fictifs issus de romans. Alors que là, lui, il mélange, hein, par exemple, dans Le Fleuve de l'Éternité, on a Richard Francis Burton, Cyrano de Bergerac, Jean Santerre, Herman Göring et Samuel Clemens. Samuel Clemens qui n'est autre que Mark Twain. Mark Twain c'est pas son vrai nom, hein, c'est Samuel Clemens son vrai nom. Donc qui partent comme ça, qui vont remonter au fil des temps quoi, en fait, pour revoir un petit peu, pour revisiter le temps passé. Alors il y a également d'autres bouquins un petit peu plus poussés on va dire, mais vers la fantasy n'importe quoi comme je l'appelle. Ouais, c'est par exemple La Jungle Nue. hein, qui est une déclinaison de Tarzan, quoi, où Tarzan est devenu vachement vieux, mais c'est pas de problème, hein, comme c'est Tarzan, il a encore toute sa vigueur et tout, et il a quelques petites particularités un petit peu zarbes, telles que par exemple, quand il tue quelqu'un, il éjacule, quoi, enfin bon, des trucs un petit peu assez chaud quand même, on va dire. Alors, il y a également les arguments littéraires, je me sers des zones d'ombre et je peux inventer n'importe quoi. Ou par exemple, il revisite le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, The Other Log of Phileas Fogg en 73, et où il prend toutes les zones d'ombre que Jules Verne n'a pas explorées, parce que bon, bah, le bouquin, il fallait bien qu'il fasse pas trop pavé, quoi. Donc, il a plus ou moins délayé. Et bon, bah, Philippe-Joseph Farmer, lui, va prendre tout ce que Jules Verne ne dit pas, c'est-à-dire la période où Phileas Fogg fait un saut de puce et tout, et il raconte ce qui va se passer, quoi, à sa façon, bien sûr. Alors, donc, ça donne des trucs assez rigolos. En 79, c'est Jesus on Mars, un martien nommé Jésus, mais il est surtout connu des auteurs, enfin des fans de fantasy par ses sagas. Alors il y a plusieurs sagas, il y a la saga de Caliban avec Lord Gandrid, ça c'est la jungle nulle, Seigneur des arbres, The Mad Goblin, mais c'est surtout les sagas hyper fleuves, c'est-à-dire avec des gros pavés, et t'en as.
Tu peux parler de fleuves d'ailleurs, justement.
Oui, non mais j'allais, il y a la saga justement du fleuve de l'éternité que j'ai cité, quoi, avec le monde du fleuve, le bateau fabuleux, le noir des saints, labyrinthe magique, les dieux du fleuve. Il y a également l'autre grosse saga qui est plus énorme encore, c'est la saga des hommes-dieux, parce qu'il a commencé pratiquement au milieu des années 60 avec Faiseur d'univers, les ponts de la création, Cosmos privé, les murs de la terre, le monde, la balite plus fort que le feu et la rage d'Orc le rouge. La saga des hommes-dieux d'ailleurs qui a donné vie à un jeu de rôle qui s'appelle Toan, les Faiseurs d'univers. Tout ça donc Philippe-Joseph Farmer. Alors si vous voulez commencer cool, je dis bien, si vous voulez commencer cool.
Il nous regarde avec les bouquins. Alors là, je vous dis, il y a de la littérature.
Vous commencez par un bouquin qui pourrait être un one shot. Hein, c'est tiré de la saga, mais enfin bon, on peut lire un bouquin sans lire l'autre. C'est La jungle nue de José Farmer. Alors là, c'est pour être quand même assez terre à terre. Bon, il y a quand même des événements un petit peu fantastiques dedans, mais c'est pas tellement évident. Si vous voulez commencer très trash, vous commencez par Comme une bête, quoi, parce que là, vous allez voir, c'est bien trash. Vous dites, ok, waouh, ça sortait ça déjà dans les années 60. Ah bah désolé. Mais enfin, il a fallu attendre quand même quelques années avant que ça parusse, avant que ça paraisse en version française aux éditions Champs Libres. C'était dans les années 70, quelques années après, quand même. Et si vous êtes déjà un lecteur confirmé et tout, que vous avez envie de vous attaquer à une grosse saga, vous avez le choix entre les deux, le fleuve de l'éternité ou les sagas des hommes-dieux. Je vous conseille le fleuve de l'éternité qui est un petit peu plus lisible, on va dire, parce que c'est quand même très 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 touffu, hein. Et pas mal de gens n'aiment pas trop Farmer parce qu'il a ce côté un petit peu trop touffu, un petit peu chiant, quoi, on dirait, pour rester poli, quoi. Bref, enfin, faut quand même lui rendre hommage, hein, parce que bon, ça a quand même été un des auteurs un petit peu majeurs de la science-fiction et de la fantasy. Philippe-Joseph Farmer, donc décédé le 25 février dernier.
Alors, on avait prévu plusieurs sujets, notamment celui sur les soirées sur NBC. Qui était une actualité brûlante, on fera ça la semaine prochaine, vu qu'il est 13h25.
Ouais, c'est pareil, je voulais vous parler encore d'un bouquin de Pete Dexter, là, Deadwood, donc, hein, dont est tirée la série, mais je le ferai la prochaine fois.
Ouais. Ça fait de la matière, ça tombe bien, on y va pour la télé.
Allez, la télé, bah y a pas.
On enlève le bouchon, ça marchera mieux.
C'est vieux.
Alors, une seule série inédite et dont même les chroniqueurs de journal télé se demandent ce qui a poussé TF1 à la programmer aussi tard que ça, mercredi prochain 23h15, car c'est une série qui, dans sa version américaine, a été diffusée aux heures de grandes écoutes, tranquille, parce que c'est pas une moins 10, parce que
ce qu'on appelle les heures de grandes écoutes aux États-Unis, c'est entre 20h et 22h30.
Voilà, voilà, donc où il n'y a pas besoin d'annoter un truc pour dire attention les enfants, non. Et pourtant, bon bah ok, on y a quand même droit, mais bon bah c'est pas ce qu'il y a, Dr House aussi, faut le dire. Hein, faut le dire.
Succès de l'acteur
Bon, bref.
Ouais.
Alors, ça, il s'agit d'une série qui s'appelle Life, et c'est le titre est issu en fait de la sentence qu'aurait dû exécuter Charlie Cruz, qui a été injustement accusé d'un meurtre et condamné au trou, mais libéré au bout de 12 ans parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas lui le coupable. Et Charlie Cruz, avant d'être accusé de meurtre, eh bien, était inspecteur de police.
Ah oui, et tu en avais parlé la dernière fois.
Et donc, il va sortir, il va réhabiliter et tout. En plus, il va toucher des millions de dollars parce que bon, bah, il a passé 12 ans au trou pour rien. Hein, donc, pas mal, histoire de voir venir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va redevenir inspecteur de police. Parce que bon, bah, c'est son kiff, c'est son boulot avant et tout, il n'y a pas de raison, merde. Et puis bon, là je suis à l'aise, donc je fais ce que je veux. Et il va redevenir inspecteur de police parce qu'il était assez bon dans son domaine aussi, hein, parce que une faculté d'intuition, de calcul qui faisait qu'il était assez bon quand même, inspecteur, et aussi, bien sûr, évidemment, pour retrouver le véritable coupable du meurtre pour lequel il a été condamné injustement, bien sûr. Alors, Damien Lewis interprète Charlie Cruz, et à ses côtés on retrouve Sarah Chahi, qui a joué dans The L World et qui interprète le rôle de Danny Rees. Alors la première saison ne fait que 11 épisodes parce qu'il y a eu la grève des scénaristes, et que voilà quoi, c'était encore, on savait pas trop quoi faire de ce genre de série parce qu'il s'agit d'une série policière, mais plus dans la veine de Monk, voire j'allais dire Sherlock Holmes quoi, mais enfin bon, il y a pas d'action, c'est pas basé sur les poursuites dans les escaliers, on saute dans les poubelles par la fenêtre du troisième étage et tout ça, non, c'est
sabotage.
La réflexion, c'est l'accumulation de petits détails, Columbo, voilà, c'est ça quoi, c'est à dire que ok quoi, on peut garder son pardessus durant tout l'épisode sans problème, même s'il est frippé, il sera pas plus frippé à la fin de l'épisode, c'est ça qui est excellent quand même. Donc Damien Lewis qui joue donc dans cette série Life, et qui donc au niveau fil conducteur durant les 11 épisodes de la première saison, eh bien, va essayer de trouver bien sûr qui est le véritable coupable, mais qui va également faire son boulot, c'est-à-dire résoudre des enquêtes policières, et ce au rythme de une enquête policière par épisode. Donc on peut globalement regarder cette série sans regarder le début, hein, sachant que le fil conducteur, bon, est unique, hein, assez simple à comprendre, donc il n'y a pas besoin de faire des récapitulatifs de merde à chaque fois, ou hyper long, pour comprendre de quoi il s'agit dans cette série Life. Et il faut savoir que ça a tellement plu aux exécutifs de la chaîne qui produisait que la deuxième saison a déjà été tournée et va être prochainement mise en boîte. La série plaît, donc ça veut dire que peut-être qu'on va tomber sur une excellente série, une très bonne série. On verra ça mercredi prochain sur TF1 23h15 Life. Alors si je vous dis Jane Austen,
Austen,
écrivaine très réputée aussi en typographie parce qu'elle a un typo rien que pour elle.
Écrivaine donc anglaise du 19e siècle, et qui a le vent en poupe depuis un bon nombre d'années, on va dire, hein, depuis les années 90, où on y va, on adapte à tour de bras sans problème et tout. Alors il faut savoir que y a surtout deux bouquins, surtout Orgueil et Préjugés, bien sûr, Pride and Prejudice, et il y a également Sense and Sensibilité, qui sont les deux bouquins qui sont les plus adaptés, réadaptés et tout. Alors il faut savoir que par exemple pour Sense and Sensibilité, c'est déjà la 5e adaptation qu'on va pouvoir bientôt voir sur Arte vendredi prochain à partir de 20h45, produit par la BBC bien sûr. Alors il faut savoir que dans Sense and Sensibilité, qui a déjà été interprété par le passé par Laurence Olivier, Peter Cushing, Patrick McNee, et on se souvient aussi de Emma Thompson, Kate Winslet dans le film d'Ang Lee en 95, qui va passer sur TVA d'ailleurs mardi prochain à 20h35. Eh bien, cette version est une version toute récente de la BBC, bien sûr, hein, qui a été diffusée l'année dernière, le 30 mars dernier, par la BBC. Alors, le réalisateur chevronné reconnu, c'est John Alexander, hein, qui nous a fait déjà Life on Mars, qui nous a fait Sally Lockhart également, donc il n'y a rien à dire. Le scénario, c'est d'Andrew Davis, donc ça va, hein, Docteur Jivago, le journal de Bridget Jones, entre autres. Bon, ok, on va dire que ça marche. Mais c'est surtout l'histoire de découvrir eh bien d'autres acteurs et d'autres actrices anglaises qu'on ne connaît pas, parce que eh bien là il ne s'agit pas vraiment de premier rôle, ou du moins il ne s'agit pas d'acteurs et d'actrices qui ont tellement franchi le Channel ou l'Atlantique. Alors ça raconte en fait l'histoire de Sensibility, c'est l'histoire d'une maman et de ses trois filles, et ça va surtout se résumer en fait à ce qui se passe entre les deux sœurs aînées et la maman, les petits conflits, les petites histoires de famille et tout, et à travers ceci bien sûr une satire, une critique un petit peu insidieuse hein, de la société bourgeoise anglaise de cette époque là. Alors la mère est interprétée par Madame Dashwood, Mrs. Dashwood est interprétée par Janet Mateer, et donc les deux filles sont interprétées par Hattie Moran qui joue le rôle d'Elinor et par Charity Wakefield qui joue Marianne. On a également Dan Stevens, on a quand même du côté connu David Morrissey qui fait partie de la série, hein, bon ok, on va se dire ouais ça peut être pas mal, c'est cool, et donc ce sera diffusé c'est en trois parties hein, donc c'est sur Arte vendredi prochain du début de la soirée jusqu'à Trax, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 quoi, donc à partir de 20h40 vendredi prochain, Sense and Sensibility. Alors vite fait, au sujet des petites nouvelles qui font vraiment plaisir beaucoup et qu'on espère que ça va se concrétiser et que ça va vraiment se faire, enfin il paraît que c'est déjà signé et tout, donc que c'est en cours d'élaboration et tout, c'est Canal+ qui continue dans sa veine et qui essaye également d'imiter HBO, la BBC en coproduisant des trucs énormes et tout, mais dont on se dit que ça va être rentable parce que ça va être vendu à l'export hein, ils ont déjà commencé à le faire avec quelques séries comme ça qui se sont vendues, des séries franco-françaises produite par Canal+.
Hard.
Qui,
non, je déconne.
Oui, oui, non, mais c'est vrai. Hein, il faut parler de Hard. Ben, c'est le cas. Hein, Hard déjà vendu dans une vingtaine de pays, qui est adapté, qui va être adapté aux États-Unis et tout. Bon, c'est pas n'importe quoi.
Une réputation de French Lover encore.
Non, mais bon. Mais par contre, eh bien, on se rend compte que ben l'inverse peut également être vrai, car là, il s'agit d'une coproduction et surtout d'une production Canal+ avec des capitaux internationaux, mais surtout avec un certain Tom Fontana à l'écriture. Tom Fontana, créateur d'Oz, créateur d'Homicide, bon, bah, hein, laisse tomber, c'est du tout bon, et pour une série qui aurait pour titre, et ça, ça va te faire bondir de ton siège, parce que tu en as parlé il y a 15 jours, c'est une saga historique sur les Borgia.
Ah ouais, avec Canal+, Tom Fontana, ça va,
Canal+,
ça va donner
plus,
pas mal.
Tom Fontana plus les Borgia, ça peut donner un truc pas mal, donc. Par contre, les délais, laissez tomber hein, pour l'instant.
Lucrèce, papa.
Papa, viens ici que je te saute de brise.
C'est déjà
alors,
fait.
Oula,
il est 13h30 là.
La théma d'Arte demain, oui. C'est la guerre de sécession avec tout d'abord eh bien, le démarrage d'une rediffusion de cette excellente série de prestige qu'est le Nord et le Sud. Rappelez-vous.
Ouh, c'était passé sur E2 à l'époque.
Ah oui, mais il y a longtemps. Créé par David Wolper, c'est-à-dire le mec qui avait déjà fait Racine à la fin des années 70.
Nord et Sud, depuis les années 80.
Et c'est d'après les romans de John Jakes. En fait, ça raconte l'histoire de deux mecs qui fréquentent la même académie militaire parce qu'ils viennent de deux familles relativement aisées. Quoi. Ori Main, interprété par Patrick Swayze, qui représente le sud, et George Hazard, interprété par James Reed, qui représente le nord. Et donc,
c'est
86. Donc, mais c'est quand même la grosse série de prestige hein, qui, au départ, a été diffusée. Là, ils ont saucissonné, hein, c'est des 30 minutes, mais normalement, au départ, c'était en 85, 6 fois 90 minutes, puis en 89, 6 fois 90 minutes, puis en 94, encore 3 fois 90 minutes, donc pour raconter eh bien les destins croisés de Ori Main et de George Hazard, donc qui vont eh bien, être séparés par cette fameuse guerre civile que nous en France on appelle guerre de sécession. Mais par contre série de prestige, ça a été produit par la Warner et tout quoi, donc eh bien casting. Le casting qui tue à fond les manettes avec David Carradine dans les rôles réguliers, John Stockwell qui a une gueule d'acteur que tu dis ah ouais je connais ce mec et tout, mais je mets pas de nom dessus, mais par contre qui comme réalisateur a commis quelques trucs dans le style Bleu d'Enfer, des trucs comme ça. Il y a également Kirstie Alley, Parker Stevenson, bah ouais les deux qui étaient mariés à l'époque, mais bon ça a duré 7-8 ans hein. Parker Stevenson, Melrose Place, Baywatch, on a également Marie Crosby qu'on a vu dans Dallas, on a également Jonathan Freaks, c'est le commandant Riker dans Star Trek, bien sûr, Lloyd Bridges, Linda Evans, Dynasty, Lee Horsley, c'est Matt Houston, Nero Wolfe, l'homme à l'orchidée, et également David Ogdensteer, qu'on a vu très récemment dans Stargate Atlantis, Tandis Herbe, Johnny Cash, le chanteur, si c'est vrai, également du côté des super grosses pointures et tout, quoi, mais qui était là au crépuscule de leur carrière, Olivia de Havilland, Jane Kelly, Robert Mitchum, Gene Simmons, Liz Taylor, James Stewart, Forest Whitaker. Ah non, à l'époque, il n'était pas connu, excusez-moi. Mais bon, pour dire, hein, même Philippe Klasnoff, Philippe Klasnoff, que tu verras dans la saison 5 de Oz. C'est le russe.
Que j'ai vu d'ailleurs. Ah, voilà. Parce qu'on a fini la saison 5.
Voilà, voilà. Ok. Alors, tout ça dans cette théma, donc, du nord et du sud, c'est sur Arte demain soir à partir de 20h45. Donc, les deux premiers épisodes, mais surtout pour introduire également un excellent documentaire, La guerre de sécession, de Ken Burns, qui passe à partir de 22h15 ce même dimanche sur Arte. Alors, Ken Burns, c'est un documentaire relativement vieux, hein, qui date de 1991, 9 documentaires de 70 minutes, hein, qui avait obtenu en 91 l'Emmy Award du meilleur scénario et de la meilleure réalisation. Et Ken Burns, qui nous a fait plus tard, eh bien, War, qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps que ça, sur la chaîne Arte. Donc, c'est demain soir sur Arte à partir de 20h45, le Nord et Sud, puis à partir de 22h15, la guerre de sécession, documentaire de Ken Burns, donc en 9 parties. Putain, je suis obligé de continuer à causer parce que l'autre, il a déserté carrément.
L'autre, là.
En fait, on s'est retrouvé avec le téléphone d'un libraire dans la poche de mon blouson. C'est lui qui a sonné. Donc...
Ah bon, d'accord, je croyais que c'était le mien, quoi. C'est pour ça que je comprenais pas. Alors, vite fait, une petite sélection de films.
Qu'est-ce que j'ai dit
semaine.
De pas bien encore hein
Non, rien. Alors, comme on est dans la guerre de sécession, je me suis dit quelques petits westerns comme ça. Ouais. Allez, vite fait, ce soir, El Perdido sur RTL9 à 20h35. Ça, c'est bien. Robert Aldrich en 61, le scénario de Dalton Trumbo avec Rock Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Malone et Joseph Cotton. Kirk Douglas, il est tout en noir et tout, il fait chier Rock Hudson du début jusqu'à la fin, c'est excellent. Très bon, Kirk Douglas qui est d'ailleurs également producteur sur ce film El Perdido sur RTL 9 ce soir, donc à 20h35. Demain sur Canal Plus Cinéma, Into the Wild, c'est un western, enfin pour moi. Hein. Là où ça se passe, hein, c'est là où on disait les westerns.
Oui.
Non, mais bon, faut prendre le sens littéral de western.
D'accord,
mais voilà, c'est tout.
C'est très bon d'ailleurs, profitez-en.
De Sean Penn, donc avec Emile Hirsch et tout, enfin bon.
Sean Penn et Emile Hirsch, qu'on retrouve les deux face à la caméra dans le Harvey Milk de Gus Van Sant qui sort bientôt. Ouais.
On a également demain soir sur TMC à 20h40 Wild Wild West. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de réfléchir, hein, de Barry Sonnenfeld avec Kevin Klein et Salma Hayek. Lundi sur RTL9 à 20h35.
C'est avec qui Wild Wild West? Ah, tu l'as pas dit là.
Si, Kevin Klein, Salma Hayek et Will Smith.
Ouais.
Lundi sur RTL9 à 20h35, la revanche de Jesse Lee, excellent, de Mario Van Peebles et avec Mario Van Peebles. Billy Zane, excellent. Stephen Baldwin, excellent. Ouais. On a également sur TCM à 22h30 lundi prochain L'Homme Sauvage de Robert Mulligan avec Gregory Peck, Eva Maria Saint et Robert Forster. Haha. Et mardi sur Ciné Cinéma Classique, là c'est la soirée complète avec tout d'abord Texas, un film italo-espagnol de Tonino Valeri avec Giuliano Gemma, Van Johnson et Fernando Rey. Suivi à 22h35, celui-là il faut pas le louper, La Chevauchée de la Vengeance de Bud Bodicher, celui-là il est excellent. Avec Randolph Scott, Karen Steele, Pernell Roberts et Lee Van Cleef. Celui-là, vraiment...
du lourd.
Ouais. Série B, absolument magnifique. Mercredi, sur TCM 20h45, de High Low Country de Stephen Frears. C'est un western. Avec Woody Harrelson, Billy Crudup, Patricia Arquette, la médium et Cole Hauser. On a également, mercredi prochain, sur Orange Ciné Géant, Ne tirez pas sur le bandit de Norman MacLeod. Norman MacLeod qui est d'ailleurs, par ailleurs, si vous ne le savez pas, un des réalisateurs qui avait fait plein de films comiques et tout. C'était sa spécialité. Il était embauché à Hollywood pour faire que des films comiques, de toute façon.
Bah, il peut rester qu'un, hein.
Outlander 8, ouais.
Dans celui-là, pas de problème. C'est Bob qui joue
MacLeod,
rôle principal.
MacLeod, il peut rester qu'un.
Oui, tout à fait.
Bob et Rhonda Fleming, donc dans Ne tirez pas sur le bandit, c'est sur Orange Ciné Géant. On a encore jeudi, Nick Fury. Ah bah c'est pas un western.
Ah non. Oh non, il a osé. Il a osé. Avec... Il a tourné dans aucun western, cet acteur.
Moi, j'ai dit, oh tiens, c'est pas western.
Celui-là. Avec David Hasselhoff.
Franchement, je le mets quand même.
Un téléfilm est merdique.
Mais c'est pas un téléfilm, hein, en
attends,
plus.
Attends. Il y a eu un film sur
c'est un direct vidéo. C'est un direct to vidéo, mais, c'est un road hardy quand même. Attention. Attention, donc avec David Hasselhoff.
Il y a David Hasselhoff. Ah, moi,
c'est
je
sur Virgin 17. Ah,
tu vas être déçu. Tu vas être déçu.
Tu vas être déçu.
J'adore ce type de film, moi, bien débile, bien nanar.
Non, mais tu vas voir, tu vas être déçu quand même. Je te jure.
Tu peux pas imaginer.
Cherche pas, tu vas être déçu.
Ben, regarde, mais tu verras. Vendredi sur Action, Wild Bill, le Walter Hill qui est
sympatoche. Hein.
C'est sympa, mais bon, sans plus. Quand on connaît ce que peut faire Walter Hill, tu vois quoi.
Mais bon,
un de ses films précédents, qui est un monument du western.
Il y a eu d'autres films d'autres westerns sur Bill qui étaient sortis au même moment et qui étaient bien moins bons. Hein.
Ouais. C'est d'ailleurs le sujet principal de Deadwood, le Wild Bill. Ben... donc avec Jeff Bridges, John Hurt et Diane Lane. Et on a également sur Orange Cinéchoc, et là c'est très récent, le film est sorti l'année dernière, hein, L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford de Andrew Dominic avec Brad Pitt, Casey Affleck et Mary-Louise Parker. C'est sur Orange Cinéchoc vendredi prochain à 21h.
Je vous le recommande, pour moi c'est le meilleur film que tu as cité de la journée, parce que c'est quand tu entends la voix de Casey Affleck en VO au bout de 5 minutes, mais déjà au bout de 2 minutes, quand tu sais, bon, tu te fiches éperdument de qui il joue, mais t'as déjà envie de le frapper, ce mec-là. Il est insupportable.
C'est normal, c'est un Affleck.
Non, non, il joue tellement bien la pute que tu dis, mais ce mec-là, c'est pas possible. Et Brad Pitt est fabuleux dans ce rôle et la réalisation est excellente, il n'y a rien à redire.
Allez, bon, on termine avec des classiques alors qui sont. Qui sont devenus ce que tu viens de dire, le film dont tu viens de parler, va devenir, quoi, de toute façon, si tu le dis. Hein. Samedi ce soir, sur TCM, Parade de printemps, ça c'est un musical de Charles Walters avec Fred Astaire, Judy Garland et Peter Lawford.
Ouh.
Magnifique, hein. Ouais. Hein, Springtime Paradise, hein, avec Fred Astaire en plus, qui aurait pas dû tenir ce rôle. En principe, c'était Jane Kelly, mais Jane Kelly s'était pété un pied, donc c'est Fred Astaire qui l'a remplacé. Au pied levé. Dimanche, à direct 8, les 12 salopards de Robert Aldrich,
ouais.
Avec Borgnine, Bronson, Sutherland, Cassavet, Staves, voilà, enfin j'en passe.
Quand est-ce qu'il sort le pseudo remake
de Tarantino, certainement pour Cannes.
Ouais, ok.
Ah bon, bah ok. Lundi sur Arte, alors très bon film anglais, Tueur de dames de Alexander McKendrick. Avec Alec Guinness, Cathy Johnson, Cecil Parker, Herbert Lom et Peter Sellers. Ce film est absolument génial. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Mais surtout en VO. Mais c'est absolument excellent. C'est l'histoire des mecs qui veulent braquer, qui veulent faire un braquage et tout. Et pour ça, ils s'installent chez une vieille bonne femme. Et dans un meublé et tout, ils font croire qu'ils font une répétition de musique, parce qu'ils forment un petit orchestre, tu vois, quoi. Et c'est absolument magnifique et tout. Peter Sellers, excellent. Alec Guinness, grandissime et tout. C'est Herbert Lom, der Kommissar, hein, Herbert Lom quand même, quoi. Magnifique, à regarder. Donc c'est lundi sur Arte à 20h45. Mardi, Polar. Alors, vous vous demandez peut-être quelle est l'affiche qui est dans le bureau de
Mulder.
Non, dans le bureau du docteur Watson, du docteur House. Y a une affiche de cinéma, quoi, derrière son bureau, comme ça, quoi.
C'est un Hitchcock, si je me souviens
non,
bien.
Non, pas du tout. Il s'agit de A Touch of Evil, d'Orson Welles.
La soif du mal.
Magnifique, un des meilleurs polars du monde. C'est mardi prochain sur Polar. Allez,
ce plan
justement,
séquence.
22h30 avec, on l'aime pas, Charlton Heston, mais là, ça
bien.
Va, quoi. Il est bien, quoi. Il est fade, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Il joue le rôle d'un mec fade, donc il est fade, quoi. Alors, ça va très bien, Jason Lee. N'importe quoi, Janet Leigh, Marlène Dietrich et Hakim Tamiroff, surtout.
D'ailleurs, il y a un clin d'œil dans Ed Wood de Tim Burton où il y a Johnny Depp qui rencontre Orson Welles joué par Vincent D'Onofrio qui lui dit « Ah là là, en ce moment, je me prends la tête parce qu'il y a les producteurs, ils veulent m'imposer Charlton Heston pour jouer un Cubain, je crois, ou un Sud-Américain. » Et Johnny Depp, il dit « Ah, m'en parle pas, moi c'est pareil.
» Quand même là, des face-à-face de l'histoire du cinéma, t'es les plus marrants, quoi.
Alors, La Soif du Mal, donc c'est mardi prochain sur Ciné Polar, hein, à 22h30. Mercredi, sur Cinéma Star, à 20h45, 1000 milliards de dollars, le Verneuil de 82 avec The Wire, qui est vraiment bien aussi, quoi, Caroline Serrier, Jeanne Moreau. Jeudi, sur TCM, Témoin à abattre à 23h05 de Lewis Allen en 55 avec Edward G. Robinson, Nina Falk, Hugh Marlowe et Jane Mansfield. Vendredi, deux films carrément pour le prix d'un. Tout d'abord, le outrage de Del Palma sur RTL9 avec Sean Penn, G-Fox, Leguizamo et toute la bande. Et surtout, un autre Orson Welles sur Cinépolar, 21h, Monsieur Arkadin, qui avait réalisé quelques années avant de réaliser La Soif du Mal, avec Paolo Mori, Robert Arden, Hakim Tamiroff encore et Michael Redgrave. Ça, c'est un polar, petit polar, quoi, on va dire, mais vraiment bien quand même, quoi. L'histoire est vraiment très très bien, quoi, mais c'est un petit polar par rapport à La Soif du Mal, ça, il y a pas photo de toute façon, voilà.
Sur la musique de Fulon qu'on se barre. Puisque JB n'est pas prêt, Thomas, peux-tu...
Si, tout à fait prêt, évidemment. Thomas, peux-tu nous faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, hein?
Mais bien sûr, JB, nous avions le duo de scénaristes BK pour les rugbymen. Nous avons eu de la...
On dédicace tout à l'heure à partir de 15h.
De la bande dessinée anglaise, des Brutus, du Punisseur, du Clint et sa voiture contre les faces de Nem. Un Laïus sur Zidane et Maradona, la nécro de Philippe José Farmer, un flic en prison puis reflic. Les Borgia, produits par Canal, des Bleus et des Gris, du Western en série et du Classico.
Yes, non d'une mêlée, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 14.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, quiz custodet ipsos custodes, comme disent les supporters de l'AS Roma, et par la même, on verra si le mal peut l'emporter dans les comics de super-héros.
Et voilà, donc
on se retrouve la semaine prochaine.
Ce qui se traduit comment, cette phrase de Juneval?
Pour moi, c'est du l'ipsum orem.
C'est Parabellum. Qui garde les gardiens.
Ah.
Eh oui. Watch the Watchman. Ciao, bye bye, see you.
Tchuss.
A plus. Ciao. Merci.